Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Napoléon est à l'honneur ce soir, à l'heure où l'on s'apprête à commémorer le bicentenaire de sa mort à Sainte-Hélène. C'était le 5 mai 1821. Vos librairies vont crouler sous le nombre de nouveaux livres consacrés à Napoléon, l'Empire, ses conquêtes, ses maîtresses, ses victoires, son œuvre civile et culturelle, son exil, sa mort et puis bien sûr son bilan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est devenu fou. Deux extrêmes aujourd'hui quand on parle de Napoléon, la géographie, ah quel génie, ou le déni, quel tyran. On l'adore ou on l'aborde, on le glorifie ou on le voue aux gémonies, au point d'ailleurs que certains voudraient qu'il n'y ait pas de cérémonie officielle du bicentenaire. La mémoire dans ce pays est un sujet qui fâche, mais l'histoire c'est autre chose. Ce sont des faits contextualisés, expliqués, racontés, vérifiés, et je vous propose ce soir de faire parler les faits, sans rien occulter, le mythe du chef charismatique, les guerres sanguinaires de Napoléon, sa misogynie, le rétablissement de l'esclavage, l'élan de la Révolution qu'il brise avec l'Empire. Nous en parlerons, nous en débattrons, mais aussi ses réformes et les outils démocratiques dont nous nous servons aujourd'hui encore, et peut-être même d'ailleurs sans le savoir. Pour évoquer tous ces sujets, je vous offre ce soir quelques-uns des meilleurs livres sur Napoléon et leurs auteurs. Bonsoir Thierry Lenz.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la Fondation Napoléon, auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur le sujet depuis maintenant, j'allais dire presque toute votre vie, vous êtes tombé très petit, à l'âge de 8-10 ans je crois, dans la passion Napoléon. Vous en avez marre. Voilà. Marre de la hargne, de la rogne, de la grogne contre Napoléon. Votre livre « Pour Napoléon » est un coup de gueule qui reprend ce que vous appelez les faux procès, un par un, et qui rétablit les faits, nous allons en parler. L'image de Napoléon a été écornée, vous le reconnaissez d'ailleurs, par le rétablissement de l'esclavage, dont on parle énormément en ce moment. Et pour comprendre, plongeons dans un très bon livre qui paraît en poche, « Les maîtres de la Guadeloupe ». Bonsoir Frédéric Régent.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Pascal Fautrier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez enseigné les lettres à l'université du Havre, pas l'histoire. Vous avez un parcours d'ailleurs assez étonnant, on va y revenir. Votre domaine de spécialité, c'est d'abord Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir, mais vous avez publié chez Folio une biographie de Napoléon Bonaparte et vous faites paraître aux éditions Alexandrine le Paris de Napoléon dans quelques semaines. Pierre Branda, bonsoir.
Bonsoir.
Autre spécialiste du Premier Empire, vous publiez Napoléon à Sainte-Hélène, alors qui nous raconte la fin de Napoléon, depuis l'abdication après Waterloo jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène, en passant par ce fameux confinement. On reviendra sur le mot et sur la chose. Et puis enfin, Bruno Fuligny, bonsoir.
Bonsoir.
Je salue le régent du Collège de Pataphysique. Et puis l'historien également, historien d'un genre un peu particulier. Vous, ce que vous aimez, ce sont les archives, c'est les documents inédits. Et vous publiez « La fille de Napoléon », c'est aux éditions Les Arènes, l'histoire de cette fille inconnue de l'empereur, dont on a cru qu'elle allait devenir une sorte de Jeanne d'Arc bonapartiste. On va commencer, si vous le voulez bien, par une question qui est à la fois simple et problématique. Pour quelles raisons les commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon posent-elles aujourd'hui autant de problèmes? Thierry Lenz.
Elle ne pose pas de problème a priori, puisque commémorer n'est pas célébré et que des choses sont prévues, des expositions, des colloques, des livres, comme vous le disiez tout à l'heure. Simplement, vous l'avez aussi noté, les choses ont commencé très très fort, puisque une partie de l'opinion, assez minoritaire à mon avis, envisage qu'il n'y ait pas de commémoration du tout et que, on efface un petit peu le souvenir de Napoléon de l'histoire de France. Or, il ne s'agit pas évidemment, et vous l'avez signalé aussi, de le glorifier, de le regarder aveuglément. Il s'agit simplement de l'étudier, de reconnaître ses apports et puis effectivement, pour ceux que ces questions fâchent, de les étudier ensemble sans forcément se jeter les assiettes à la tête, s'accuser de je ne sais quoi.
On peut encore le faire et le pratiquer aujourd'hui en France. On a le sentiment que depuis quelques temps, c'est peut-être pas comme ça il y a 5, 6 ans ou 10 ans, l'émotion, la morale, le jugement ont pris le pas sur les faits et la connaissance. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui débattre entre historiens, philosophe, sociologue, littéraire, sans que les passions l'emportent, Pierre Mandat ?
Oui, tout à fait. Mais avec Napoléon, la passion l'a toujours emporté. En fait. Depuis 200 ans, on le glorifie, on l'attaque, il y a une légende dorée, une légende noire. Napoléon est un concentré de passion française, en fait, depuis
longtemps. Vous voulez dire que ça n'est pas nouveau ?
Non, ce n'est pas nouveau. En fait, ça se décline différemment selon les époques, même au temps lorsqu'en 1969, il y a eu le bicentenaire de sa naissance. À ce moment-là, il y avait d'autres attaques. On était plus porté sur le Napoléon homme de guerre, sur le Napoléon qui a bouché de l'Europe, etc. Je veux dire, les critiques changent avec les époques. C'est notre regard qui change. C'est nous qui changeons.
Nos sensibilités changent également.
Oui, également, parce que Napoléon est mort il y a bientôt 200 ans. Donc lui, effectivement, il ne pourra plus changer, mais c'est nous qui changeons par rapport à lui. Et de plus en plus. Le problème de l'historien, c'est qu'en fait, il est un peu mal à l'aise avec l'actualité, car d'abord, l'histoire est complexe. Et donc, une actualité, c'est plutôt bref, enfin, même si on la développe. Mais l'historien, il est obligé, à travers les sources, à travers un certain nombre de choses, d'expliquer les choses de manière complexe. Et ensuite, si le passé, parfois, explique le présent ou l'avenir, expliquer le passé à travers le présent, c'est faire de l'anachronisme. Et ça, pour l'historien, c'est un danger mortel. Et donc, c'est pour ça que l'historien est toujours un petit peu mal à l'aise avec l'actualité. Et quand il y a une commémoration, le sujet vient d'actualité. Et donc, en fait, il reflète notre époque. Et c'est toujours un peu une position instable pour nous, parce que ce n'est finalement pas notre métier d'être dans l'actualité. Notre métier, c'est le passé.
Alors là, vous me parlez de vous, mais j'aimerais qu'on parle de ceux qui nous regardent, c'est-à-dire les téléspectateurs qui vont devenir lecteurs de vos livres. Eux ont peut-être une sensibilité aujourd'hui qui n'est plus la même qu'il y a une dizaine ou une trentaine d'années. Vous parliez du bicentenaire de la naissance, c'était en 1969. Autant vous dire que c'était il y a une éternité presque, à l'autre siècle.
Excusez-moi, c'était l'année de ma naissance.
Oui. Moi, j'avais 10 ans, donc c'était pas si loin. Oui.
Mais les sensibilités sont quand même plus les mêmes entre 1969, Thierry Lenz, Frédéric Réjean et 2021.
Mais pour compléter,
c'est pas sûr.
Parce que
c'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Qu'est-ce qui vous semble rester ?
Je pense que le mot passion est le mot qu'il faut employer. Et qu'en fait, il y a une importance, pas seulement historique et politique de Napoléon Bonaparte, mais je dirais une importance anthropologique. Je pense qu'il représente une sorte de tournant anthropologique qui est celui de la Révolution française et de la Révolution industrielle. Il représente sur le plan du mythe et sur le plan de l'imaginaire, bien sûr, l'homme qui forge son propre destin. Et du coup, quelque chose que j'appellerais, moi, de manière un peu provocatrice, une sorte de bovarisme masculin. C'est-à-dire l'idée depuis la Révolution française qu'on peut avoir un destin qui ne soit pas totalement déterminé par sa naissance sociale, par ses conditions sociales de naissance. Et de certains points de vue, on pourrait même considérer que la Bovary de Flaubert, d'ailleurs Flaubert, on était dans une émission de littérature, on dit voilà, Bovary, c'est moi. Le bovarisme féminin est en fait secondaire par rapport à ce bovarisme masculin. Et du coup, il y a une sensibilité particulière des hommes aussi, parce que d'autre part, notamment à cause de ce bovarisme masculin, la construction de la virilité chez les petits garçons depuis deux siècles, alors est-ce que c'est encore vrai pour les moins de 40 ans? C'est une question qu'il faut poser. Mais il me semble que la construction de la virilité, le personnage de Bonaparte est complètement central, est une référence absolue. Et du coup, il y a quelque chose là, on pourrait développer, mais qui même explique peut-être les passions actuelles.
C'est une piste, on va y revenir, et notamment sous l'angle de la littérature avec vous tout à l'heure, Pascal Fautrier. Alors revenons du côté de la pure histoire napoléonienne, et Thierry Lenz, commençons par ce coup de gueule que vous publiez chez Perrin pour Napoléon. C'est un réquisitoire contre les faux procès, on pourrait le dire ainsi, mais aussi contre une certaine façon, on l'a compris, de faire l'histoire. Vous rappelez ce que l'on doit à Napoléon, vous n'évitez d'ailleurs aucune de ces fameuses questions qui fâchent. Était-il un dictateur, un esclavagiste, voire un génocidaire, un monstre sanguinaire qui envoya à la mort des millions de personnes, le fossoyeur de la République, etc., etc. On va prendre les problèmes les uns après les autres, et puis j'aimerais entendre évidemment chacun sur ces questions-là. Peut-on, pour commencer, Thierry Lenz, par ce qui reste, dire que nous sommes en 2021 façonnés par la conception de l'organisation, allez, on va dire, politico-sociale, qui fut celle de Napoléon ?
Oui, encore aujourd'hui. Comme je le dis à un moment, Napoléon est un peu en nous, sans que nous le sachions.
Oui, vous dites à un moment, on est comme M. Jourdan, c'est-à-dire qu'on fait du Napoléon sans le savoir.
Oui.
Mais prenons quelques exemples très concrets.
Bah, écoutez, promenez-vous dans les villes, à commencer par la nôtre, Paris, mais aussi les villes de province, l'architecture, l'alignement des maisons, etc. L'organisation politique, évidemment, avec les grandes institutions qui viennent de lui et qui restent, le Conseil d'État, la Banque de France, bien d'autres choses. Mais ça va même au-delà, avec des habitudes sociales dont on ne se rappelle pas qu'elles datent de l'époque napoléonienne, balayer devant sa porte, ce que les gens ne font plus, mais normalement c'est une obligation.
– Balayer devant sa porte, c'est Napoléon.
– Oui, c'est un arrêté du préfet de police de Paris. Enterrer ses morts à six pieds sous terre, etc. etc. Et puis… Des nœuds sociaux, comme Napoléon les appelait lui-même, c'est-à-dire une habitude de 215 ans d'application du Code civil, qui fait que, même si le Code a justement été révisé de très nombreuses fois, son ossature n'a pas été tellement changée, et qui régisse, sans que nous nous en rendions compte, les successions, la signature des contrats, la non-confessionnalité de l'État, y compris après notre mort, puisque les successions datent aussi de cette époque-là. Sur 2281 articles du Code civil d'origine, il y en a la moitié qui sont encore ceux qui ont été écrits en 1804.
Est-ce que ça veut dire que le principal legs de Napoléon est législatif?
Alors, ce n'est pas le principal, mais c'est un legs extrêmement important. Et c'est ce qui, probablement, mérite qu'on réfléchisse sur lui. Je ne dis pas qu'on le défende, car le livre s'appelle « Pour Napoléon ». C'est parce que j'ai tellement entendu de « contre Napoléon » dans les réunions auxquelles j'ai participé ces derniers mois que j'ai un peu provoqué en choisissant ce titre. Mais je crois que c'est aussi, ça peut être un moment où on va en discuter. Pierre parlait tout à l'heure de 1969, où c'est M. Régent, en 69. Il y a eu les mêmes débats, mais les gens, encore une fois, ne se sont pas jetés les assiettes à la tête. Je cite l'exemple d'Albert Soboul, historien communiste, et de Jean Tullard, qui n'est pas communiste. Ils ont eu, par article interposé, par livre interposé, des conversations sur le sujet. Il leur serait jamais venu à l'idée de s'excommunier l'un l'autre.
– Alors je crois qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose de ce genre. Il n'y a pas d'assiette, pas question que vous les jetiez à la figure. Pas d'excommunication non plus, mais peut-être un débat sur les principaux points qui sont les points sur lesquels on entend s'élever de plus en plus de voix. Vous les listez d'ailleurs, ces points. Allez, on en prend quelques-uns. Peut-on dire, Thierry Lenz, que Napoléon a été le fossoyeur de la République?
Ben, j'ai entendu ça récemment par un député qui a dit le fossoyeur de la République. D'abord, alors, encore une fois, nous faisons de l'histoire. Hein. Je ne veux pas entrer dans le débat.
On n'est pas dans le jugement. Les
voilà.
Faits.
Que veut dire République à ce moment-là? Ça ne veut pas dire du tout. Ça n'a pas de conséquences institutionnelles, le mot République, à ce moment-là. On reste dans la Respublica romaine. Et que la République, à un moment donné, se transforme en une espèce de monarchie héréditaire, pas une espèce d'ailleurs, une monarchie héréditaire, n'a pas été vécue par le temps comme une trahison par rapport à la République. D'autant que la République, dans l'esprit des gens de cette époque, c'est la terreur et le directoire.
– Pardonnez-moi, mais ça passe quand même par un coup d'État, que c'est celui du 18
mai. – Oui, mais encore une fois, ce coup d'État n'est pas préparé par Bonaparte, il est préparé par Sieyès. Sieyès est un républicain. C'est même l'homme qui a ouvert la révolution, hein, comme on dit à cette époque-là. Bonaparte a simplement, dans l'action du 18 Brumaire, l'opportunité de prendre la place de Sieyès à un moment donné. Et comme tout homme politique qui se respecte, lorsque la porte s'ouvre, il s'engouffre et il confisque le coup d'État à Sieyès. Ce qu'a voulu dire M. Corbière, puisque c'est lui dont on parlait, c'est probablement aussi qu'il trahit la révolution.
Or, est-ce que c'est une trahison des idéaux de la Révolution?
Non, alors Napoléon ne retient pas dans les idéaux de la Révolution la liberté politique, mais il faut voir aussi à ce moment-là ce qu'avait donné la liberté politique complète pendant la Révolution. Donc évidemment, il ne retient pas cette liberté politique, mais il garde la liberté civile, l'égalité, c'est l'homme de l'égalité. Il garde une partie de la non-confessionnalité de l'État. Il garde des institutions, parce qu'on nous dit toujours aussi « Ah, il a proclamé l'Empire ». Non, il n'a pas proclamé l'Empire. Il le voulait, l'Empire, évidemment. C'était un homme ambitieux. Mais il y a un Sénat qui a voté, il y a eu un plébiscite. Oui. Et donc, il y a toute une ambiance qu'il faut garder, parce que ça n'a pas été aussi facile pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'il a été obligé de se battre, comme tous les politiques qui veulent atteindre un but. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est à une époque carrefour, un petit peu comme aujourd'hui, finalement, avec une vieille légitimité qui n'a pas encore totalement disparu, une nouvelle légitimité qui apparaît. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au milieu de tout ça? Et il faut composer, il faut faire des choix. Et puis, comme on a affaire à un homme ambitieux, un peu autoritaire et même beaucoup, ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer.
Un peu autoritaire.
Ceci étant dit, il n'enterre pas les principes de la Révolution parce qu'il est entouré de gens qui sont partisans de ces principes.
Pardonnez-moi, il y a cette phrase quand même très célèbre de Napoléon qui dit « la révolution est finie ».
Oui, mais finie, enfin, ce n'est pas à vous que je vais dire ça, finie a deux sens dans la langue française. Et encore plus dans le dictionnaire de l'Académie de 1796, où finie a comme première définition « parfait » et comme seconde définition « terminée ». Je pense que le mot « fini » n'a pas été choisi par hasard. C'est-à-dire qu'il a les deux sens. Et la première phrase de la fin de la proclamation, c'est « La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie ». On peut le comprendre comme « elle est parfaite » aussi. C'est-à-dire, nous gardons les principes de 89, point final. On ne gardera pas les principes de 93, évidemment, on ne gardera pas les principes du directoire, mais on gardera ceux de 89.
Pascal Fautrier, alors je vous sens pas forcément tout à fait en accord avec ce que vient de dire Thierry Lenz. À vous lire, j'ai le sentiment, à lire votre biographie, que vous voyez en Napoléon l'homme qui s'écarter de la Révolution. Vous dites à un moment, et on le lit comme ça, c'est le récit d'une amputation, comme si Napoléon s'amputait lui-même de ses idéaux de jeunesse, de ses idéaux de républicain et de révolutionnaire.
Moi, je suis dans la tradition marxiste. Hein. C'est-à-dire que pour moi, la révolution qui compte, c'est la Convention. Donc, effectivement, nous n'avons pas la même position politique. Mais est-ce qu'on pourrait s'accorder sur une idée? C'est-à-dire que l'idée que Napoléon Bonaparte a de la République... D'ailleurs, en fait, il n'a jamais été anti-monarchiste véritablement, Napoléon Bonaparte. Parce que je pense que son jacobinisme est un jacobinisme de circonstances. C'est-à-dire que ce qui l'irrite, c'est plutôt la noblesse arrogante. Pas le roi. Il est vraiment dans l'esprit de la première révolution, de celle de 1789, s'il est révolutionnaire. Et son républicanisme est un républicanisme extrêmement romain. Et le basculement entre le républicanisme romain et césarisme, je veux dire, la frontière n'est pas si... elle est vite franchie. Elle est vite franchie.
On ne parle pas de Robespierre, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais si vous voulez, la Constitution de 93, si mythique, eux-mêmes ont décidé de ne pas l'appliquer parce qu'elle était inapplicable. Et ces grands amoureux de la liberté ont guillotiné 20 000 personnes à Paris en 6 mois. Bon, oui, donc voilà.
Si vous avez évoqué le marxisme, c'est le drapeau rouge. Napoléon, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Il ne faut pas oublier que Napoléon a voulu unir les Français. Et c'est lui qui a réconcilié toutes les Frances après 10 ans d'une guerre civile épouvantable. Il y a eu l'émigration, il y a eu... l'affrontement entre les Jacobins, les Girondins, les Jacobins entre eux, c'était des massacres. Je rappelle que pendant la Révolution française, 1,5 million de personnes ont été emprisonnées pour raisons politiques. 300 000 personnes déportées, des dizaines de milliers de massacres. On a massacré en Vendée, on a noyé à Nantes, on a fusillé à Marseille, à Toulon, on a tiré au canon sur les gens à Lyon. Je veux dire, c'est cette période-là, dans cette période-là qu'apparaît Napoléon Bonaparte. Et que veut faire Napoléon ? Réconcilier toutes les Frances. C'est lui qui fait rentrer les émigrés. Alors, les émigrés, ce n'est pas seulement le comte d'Artois et la cour de Versailles. C'est aussi Lascaz, l'auteur du mémorial. C'est aussi Chateaubriand. Je veux dire, c'est aussi ces gens-là. Je veux dire, donc ensuite, il a voulu, si je puis dire, réconcilier les Jacobins entre eux. Parce qu'ils n'avaient cessé de s'entretuer, il faut le dire comme ça. Et il a gouverné aussi avec les Girondins.
Vous exagérez, là, quand même.
Non, mais il a...
Napoléon qui essaie de réconcilier Jacobin.
Bien sûr, Danton, écoutez, Danton, Robespierre, etc., c'est une suite de massacres. Je veux dire, il faut le dire. On peut célébrer aussi la Révolution française. Je suis le premier à le demander. Je suis le premier à le demander. Mais le drapeau rouge, c'est le drapeau de la division qui a donné ensuite la lutte des classes. Et tout sauf l'union. Napoléon Bonaparte a voulu d'abord l'union des Français pour construire un projet français. Il était à la recherche de consensus. Ces consensus, et donc une loi de la majorité, il en a trouvé plusieurs. Hélas, il en a trouvé des mauvais, il en a trouvé des très bons, mais on en reparlera, il en a trouvé aussi de mauvais. notamment le rétablissement de l'esclavage, qui était un consensus, hélas, de la société française. On y reviendra. Moi, j'ai étudié une grande partie.
C'était un consensus. Ah, c'est pas de la société un consensus française.
Alors, une partie d'une grande partie, parce que tout ce que j'ai. Je veux dire, c'était par rapport à tous les partis, la grande partie, je veux dire, n'était pas opposée. L'opposition était faible sur ce sujet, hélas.
Alors, Frédéric Régent, on arrive directement sur ce sujet.
Mais enfin, je voudrais revenir. Donc, tout à l'heure, Pascal Fautrier a encensé la Convention. Et M. Lenz et M. Brinda montrent un Napoléon qui, effectivement, voulait réconcilier les Français. Alors, moi, je me positionnerais déjà sur le Directoire, parce que c'est une période sur laquelle tout le monde tire, justement pour justifier le coup d'État de Napoléon Bonaparte.
Directement, on rappelle, on est après la chute de Robespierre.
Donc la constitution du Directoire, ouais. 1795, eh bien, c'est celle que Napoléon Bonaparte va balayer. Eh bien, cette constitution, elle indiquait que les anciennes colonies étaient des départements français qui allaient être régis comme n'importe quel autre département. Et dans l'application de cette constitution, le 1er décembre 1798, il a été décidé que seraient aussi français tous les esclaves qui se retrouvaient sur des bateaux négriers, l'esclavage avait été aboli sous la Convention en 1794, et qui poseraient le pied sur une colonie où la liberté générale avait été mise en place. Et ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'un esclave trouvé à bord d'un navire négrier, par cette constitution, devenait français plus vite qu'un Prussien ou qu'un Italien qui aurait adhéré aux idées révolutionnaires. Dans cette constitution, il y avait ça. Dans cette constitution, il y avait aussi l'envoi de députés. On avait des députés donc noirs ou métissés qui ont siégé donc au Conseil des 500, au Conseil des Anciens. Il y en avait déjà à la Convention. Et Napoléon Bonaparte a mis fin à cela avec sa constitution de 1799. En indiquant que désormais, les colonies, ce ne sont plus des départements, ce sont des colonies à nouveau, sont régies par des lois spéciales. Eh bien, ceci, l'outre-mer français, eh bien, en supporte les conséquences depuis plus de deux siècles. D'ailleurs, en 2017...
Pardonnez-moi de vous couper. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est à un moment, Bonaparte, hein, en 1799, décide de modifier la Constitution.
Voilà.
Cette modification a des conséquences aujourd'hui encore sur l'esclavage. J'aimerais comprendre quel était...
Sur l'outre-mer.
J'aimerais comprendre quel est le projet de Napoléon.
Déjà, son projet évolue. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, Napoléon Bonaparte dit il y a des soldats qui ont combattu pour la République. Eh bien, laissons ces parties de la République qui ont été sauvées par ces soldats. Laissons la liberté. Voilà. C'est-à-dire que dès 1801, il envisage un projet qui est à la fois de maintenir l'esclavage dans les colonies où l'esclavage a été maintenu, c'est-à-dire les colonies qui ont été conquises par les Britanniques et qui vont être restituées en 1802 par les Britanniques lors du traité d'Amiens, La Réunion et l'île Maurice qui s'appelait à l'époque Île-de-France. Et d'ailleurs, à ce propos, La Réunion, il y a peu de gens peut-être qui le savent, mais elle va s'appeler Île Bonaparte, puis Île Napoléon. Enfin, voilà. Ces îles ont maintenu l'esclavage parce qu'ils avaient, les colons avaient refusé les envoyés de la République. Et puis l'esclavage avait été aboli en Guyane, à Saint-Domingue et en Guadeloupe. Et son projet,
donc c'est d'abord le maintien de l'esclavage.
C'est le maintien de l'esclavage. Alors c'est le maintien de l'esclavage et c'est le maintien de la liberté, mais en restaurant une autorité, une discipline. Et ce qui va changer l'appréciation de Napoléon, c'est la signature de la paix. Désormais, il n'a plus besoin de soldats pour lutter contre les attaques britanniques. Et c'est aussi une mesure... Alors, en ce qui concerne la Guadeloupe, hein, parce que l'esclavage a été rétabli en Guadeloupe et en Guyane et pas à Saint-Domingue, qu'il n'y a pas eu la possibilité de le faire, vu que l'armée de couleur de Saint-Domingue a refusé, a repoussé le corps expéditionnaire.
Est-ce que
qui
c'est, est pas le départ, pardon, c'est pas le point de départ de tout, en réalité? C'est-à-dire cette révolte menée par Toussaint Louverture avec un... un Bonaparte qui envoie un corps expéditionnaire, il le fait diriger par son beau-frère, qui meurt, qui est remplacé par Rochambeau, qui va se dépasser en cruauté. Est-ce que cette guerre menée à Saint-Domingue, et qui se solde par un échec hein, pour Bonaparte, n'est pas le point de départ, en réalité, de toute cette question du rétablissement de l'esclavage ?
Alors, c'est le point de départ. Mais Napoléon Bonaparte n'est pas un philanthrope. Hein, à cette époque-là, donc, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas partisan du rétablissement de l'esclavage.
Non, mais, c'est une minorité.
Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que c'est une minorité.
Mirabeau, par exemple, appartenait à une société des Noirs avant la Révolution française. Et Mirabeau n'est pas un des personnages les plus extrémistes. Mais ça ne fait pas un.
Non, ça ne fait pas un million. Lorsqu'il y a le débat sur le rétablissement de l'esclavage au corps législatif, auparavant, Napoléon Bonaparte a épuré le corps législatif et s'est débarrassé de... Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que l'opinion était pour le rétablissement de l'esclavage. Franchement, le paysan au fin fond de la...
J'ai analysé les mémoires qu'il a reçues sur cette question. 65
mémoires. Oui, mais les mémoires sont écrites par qui ? Non, oui, vous êtes en train
en fonction
de dire que la majorité des Français étaient pour le rétablissement de l'esclavage.
En tout cas, il n'y a pas eu une vive opposition.
Vous dites ça,
pas une vive opposition.
Pardonnez-moi, je voudrais juste intervenir une seconde. Je crois que le problème... Enfin, nous, on n'a pas de problème avec ça. Hein. Napoléon a rétabli l'esclavage. Il l'a maintenu puis rétabli dans les autres îles. Des choses affreuses se sont passées aux colonies, etc.
Pour être bien clair, pardon de vous couper, vous convenez que c'est quand même une l'aigle
Est-ce que vous pensez un seul instant que je n'en conviendrai pas ? Je trouve ça tout à fait effarant. Je ne suis pas le représentant, et Pierre non plus d'ailleurs, nous ne sommes pas les représentants de Napoléon sur Terre, comme d'aucuns pourraient le prétendre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de la contextualisation, et M. Régent le faisait bien remarquer, il y a une période au début du consulat où Napoléon, à plusieurs reprises, refuse le rétablissement de l'esclavage. Vous avez évoqué le projet géopolitique. C'est aussi une réalité. Il y a une possibilité pour les Français de dominer le golfe du Mexique, donc de posséder toutes les îles à sucre, etc. Il va tenter cette chose-là. Et évidemment, après, il se renie complètement.
Comment expliquer ce reniement ? Parce que vous posez la question, comment expliquer ? Mais allons plus loin. Que l'homme qui aussi a libéré des esclaves à Malte, qui aussi a libéré des esclaves en Égypte, quelques années plus tard,
C'est ce que disait M. Régent, c'est-à-dire qu'il a une forme d'insensibilité à la question, ça, il faut quand même le reconnaître.
C'est un raciste ?
Et puis, non, je pense que c'est pas en ces termes-là. Parce que
le terme est un peu anachronique, mais est-ce que vous diriez, est-ce qu'on dirait aujourd'hui que c'est un raciste ?
C'est un partisan du préjugé de couleur. Moi, le terme que j'emploie pour l'époque, je pense que le terme de race est inadapté pour parler du XVIIIe siècle. Mais ça, c'est un débat que nous avons entre historiens, nous ne sommes pas tous d'accord. Moi, j'ai défini le terme de couleur-statut. Donc la couleur statue, dans les colonies, vous avez plusieurs couleurs statues, vous avez les blancs. Et dans mon ouvrage « Les maîtres de la Guadeloupe », j'ai fait la généalogie des blancs. Et je me suis rendu compte que pour 40% d'entre eux, dans la paroisse notamment que j'ai étudiée, mais j'ai fait aussi des travaux pour La Réunion, et là c'est 85% d'entre eux, des gens recensés comme blancs, inscrits comme blancs dans tous les documents, ont une arrière-grand-mère noire. Donc vous voyez, le fait d'être blanc... et ces gens sont aussi propriétaires d'esclaves, le fait d'être blanc, c'est une réputation. C'est comme la noblesse. La noblesse, elle est formée d'anoblis. Donc, c'est pour ça que j'ai employé le terme de réputé blanc. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des procès pour prouver qu'ils sont blancs.
Mais
je réponds à votre question sur la race.
Est-ce que vous diriez
une autre couleur
de Napoléon
statue,
alors, je ne veux pas employer le mot raciste, mais qu'il est...
Il est partisan du préjugé de couleur.
D'accord.
Le préjugé de couleur... Bonaparte le remet en place, parce qu'il existait déjà sous l'Ancien Régime, notamment en interdisant l'entrée du territoire aux Noirs, mulâtres et gens libres de couleur, et en interdisant les mariages mixtes entre Blancs et Noirs. Et d'ailleurs, pour l'interprétation, alors est-ce que ceci s'appliquait uniquement aux Noirs ou est-ce que ça s'appliquait aux mulâtres ? Finalement, il est décidé, alors les mulâtres, c'est-à-dire les gens métissés, pour employer les termes d'aujourd'hui, finalement, ce sera limité aux, entre guillemets, noir proprement dit. Et ce qu'il faut noter, c'est que le mot esclavage n'apparaît jamais dans les lois votées par le corps législatif pour celle du 20 mai 1802 ou dans l'arrêté consulaire du 16 juillet 1802 pour la Guadeloupe où on met pas le mot esclavage, on met les colonies seront régies par les lois antérieures à 1789. Voilà, donc il y a quand même vous voyez, ils sentent qu'il y a quand même une faute morale par rapport à ça, par rapport à ce rétablissement. Le terme n'est pas employé.
prenons une autre date aussi qui est importante, c'est les 100 jours, 1815, où cette fois-ci, alors ce n'est pas l'abolition de l'esclavage, c'est l'abolition de la traite. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela change? Oui. Est-ce que d'ailleurs, ça montre une évolution?
Alors écoutez, je vais vous montrer que je suis tout à fait capable de faire mon travail correctement. L'abolition de la traite en 1815, c'est de l'esbrouf de la part de Napoléon.
Opportuniste.
Il a accès à aucune colonie. Et puis surtout, il sait que le congrès de Vienne, parce qu'on parle toujours d'abolition de la traite en disant, et même de l'esclavage, 1848, etc. Au niveau international, le premier accord international qui prohibe la traite, alors il va avoir beaucoup de mal à s'appliquer, mais il y en a tellement qui ont du mal à s'appliquer, c'est celui que prend le congrès de Vienne. Or, Napoléon sait, il connaît les débats du congrès de Vienne, et il sait très bien qu'il y a une commission qui prépare l'abolition de la traite. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut leur couper l'herbe sous le pied. Je suis plus libéral que vous. Je veux dire, il
avait... Frédéric Régent, vous êtes d'accord? C'est de l'opportunisme politique ou une vision politique?
Là,
d'accord,
oui.
Très bien.
Bon, voilà. Quand M. Lenz dit que Napoléon Bonaparte est d'opportuniste, je suis d'accord avec lui.
Sur cette question de l'esclavage, je renvoie à deux livres, Les Maîtres de la Guadeloupe, de Frédéric Régent, chez Texto, et puis Napoléon, l'esclavage et ses colonies, qui est le livre que vous avez coécrit ensemble, d'ailleurs. Oui. Thierry Lenz et Pierre Branda, il me semble qu'il y a là ce qui permet de se faire une idée à partir des faits. Alors, avançons et revenons au livre de Thierry Lenz avec un certain nombre d'autres questions. Tiens, qu'on a déjà un petit peu abordées. Napoléon était-il un dictateur ?
Thierry Lenz. Alors là, c'est toujours la même façon de répondre. C'est-à-dire, d'abord, comment est-ce qu'on définit la dictature, et spécifiquement la dictature militaire, puisque c'est souvent comme ça que, par exemple, Georges Lefebvre, un historien connu, vénéré de tous, a un chapitre qui s'appelle « La dictature militaire », dans lequel il démontre absolument pas que la dictature a été militaire.
Attendez, on peut faire autrement, si vous voulez. On peut prendre Chateaubriand, on est dans une émission littéraire. Tiens, Chateaubriand, le gouvernement consulaire naît, la liberté meurt. C'est clair, lapidaire, ça dit.
Alors écoutez, je pense que Chateaubriand n'a pas totalement tort. La liberté politique n'est pas assurée sous le régime napoléonien. Enfin, personne ne dira le contraire. Simplement, pour tout un tas de raisons qui ont été expliquées tout à l'heure, on est dans une situation extrêmement particulière qui nécessite au départ un petit peu une remise en ordre et qui va durer ensuite parce que Napoléon est un gouvernant autoritaire.
Est-ce que l'autoritarisme de Napoléon fait de lui un dictateur ?
Et pas du tout, parce que ce gouvernement est considéré par la population comme légitime. Vous me direz le Troisième Reich aussi à certains moments, mais enfin, il y a quand même des plébiscites, il y a des élections.
Non, je ne vous le dirai pas d'ailleurs.
Vous ne me le diriez pas, je vous remercie. Il y a des élections tous les ans en France, sous le Consulat et l'Empire, on réunit les assemblées électorales et il y a une participation très forte, très bizarrement, 45-50%.
Mais les décisions, Thierry Lenz, sont quand même prises par, au départ, un premier consul.
Non.
Puis un empereur, pardonnez-moi,
mais
qui va assez peu consulter les chambres.
Mais bien sûr que si.
C'est lui qui décrète, c'est les sénateurs consultent
tout de même. Il va conserver le formalisme de la Révolution. Et il se trouve placé à plusieurs reprises devant des organes qui l'empêchent d'agir. À commencer d'ailleurs par Cambacérès, qui est son numéro 2. On a leur correspondance. Et il y a tout un tas de lettres dans lesquelles Cambacérès lui dit « Non, vous ne pouvez pas faire ça. La loi vous l'interdit. » Alors qu'après, il trouve une solution juridique. Oui. C'est autre chose, mais si vous voulez, il y a une espèce d'acclimatation. Alors, je ne vais pas vous dire que Napoléon, c'est le grand démocrate, mais d'un autre côté, il n'y a pas de déterminisme historique non plus. La France n'était pas destinée, dès l'homme de Cro-Magnon, comme je le dis à un moment, à être une république parlementaire. Hein. Sinon, on pourrait leur reprocher d'avoir inventé le feu plutôt que de s'occuper de créer la Troisième République. Mais il y a un environnement qui est une préparation de la suite. Pourquoi la suite va se passer comme ça? C'est parce qu'il y a eu cette étape, qui a été une étape, on va dire, d'acclimatation relative de l'état de droit. Et je vous fais remarquer que le serment constitutionnel de Napoléon en 1804, qui lui est imposé par le Sénat...
Quand il devient empereur.
Quand il devient empereur, le Sénat lui impose un serment constitutionnel.
Que dit-il ?
La liberté politique, le vote de l'impôt par les chambres, l'égalité entre les citoyens, la sacralisation de la vente des biens nationaux, le respect du concordat, etc. Lorsqu'en 1814, le Sénat vote la déchéance de Napoléon, tout le Senatus consul, donc la loi qui décide de ça, se réfère au serment constitutionnel. Je ne veux pas dire que c'est parce qu'il n'avait pas respecté son serment qu'on va le renverser, mais c'est pas... les institutions se disent, pour agir, je dois m'appuyer sur quelque chose qui soit juridiquement valide. Il ne s'agit pas de dire que tout est rose et tout est beau, mais c'est qu'on est dans cette période d'acclimatation. Quant à la dictature militaire, les militaires n'ont absolument pas, mais pas du tout,
participer au gouvernement napoléonien.
Alors comment expliquez-vous cette phrase de Stendhal, pardonnez-moi, mais qui est peu suspect quand même d'être anti-napoléonien?
Qu'est-ce qu'il dit, Stendhal?
Vous la connaissez par cœur dans sa vie de Napoléon. Le gouvernement d'une douzaine de voleurs lâches et traîtres fut remplacé par le despotisme militaire.
Oui, mais non, c'est dans la méthode de gouvernement. C'est-à-dire que, effectivement, tout ce qui a été centralisation, mise en place de pyramides administratives, judiciaires et tout ce qu'on veut, donne l'apparence de pouvoir militaire.
Donc Stendhal se trompe ?
Oui, bien sûr, il peut. Hein. Ça peut lui arriver.
Stendhal se trompe.
Et ce qu'il y a, c'est que les militaires, on en voit beaucoup. Ils sont emplumés, ils sont riches, ils sont titrés. Mais ils servent à quoi ? Ils servent à commander les armées. Ils ne s'occupent pas de politique.
Elles sont très présentes, les armées, malgré tout.
Oui, mais pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur.
Alors, les armées, justement, ça, c'est un autre point. Hein. Vous évoquez la méconnaissance que l'on a de Napoléon quand on parle de ses guerres et des millions de morts.
Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, les millions de morts, ça date de la Restauration. Hein. Le premier chiffre qu'on a donné, c'est 5,5 millions. Pas de chance, il n'y avait eu que 2,2 millions mobilisés. Donc, il y avait 3 millions de trop. Donc, la grande question des historiens militaires, alors il y a toutes les polémiques autour de tout ça, bien sûr, mais la grande question, c'est de dire quels sont les chiffres de pertes. Les chiffres de pertes sont très difficiles. Alors, les calculs les plus sérieux, des démographes qui ont fait des sondages dans les États, etc., on est, pour la France, entre 900 et 1 million. Donc, ce n'est déjà pas des millions, c'est 1. Ensuite, sur le reste de l'Europe...
Vous en reconnaissez tout de même.
Non, mais attendez, la guerre...
Pas non plus,
Vous n'allez pas me dire que la guerre, ça ne fait pas de morts.
Non,
la guerre, ça fait
la
des
guerre
morts.
Entre. Pourquoi une guerre entre. Alors. J'allais dire 1802.
Non, mais alors.
Non-stop, c'est.
Oui, mais si vous voulez, quand vous dites que c'est les guerres entre 1800 et 1815, vous ne donnez qu'une partie du problème. Ce sont des guerres entre 1686 ou 7, hein, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et 1815. C'est la deuxième guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Et c'est une guerre qui est faite sur une volonté française, mais qui avait été autrefois la volonté des Habsbourg, qui avait été autrefois la volonté de Charles Quint, c'est qu'il y ait une puissance prépondérante qui organise l'Europe. J'ai dit prépondérante, pas hégémonique. Mmh. Napoléon n'a jamais voulu être empereur d'Europe, hein, évidemment. Et donc, c'est une continuation de guerre, d'ailleurs, dont la Révolution s'est emparée elle-même. Les guerres de la Révolution française, c'est bien joli de dire ils apportent la liberté au monde et le droit des peuples, et je m'arrêterai aux frontières naturelles. Ils ne se sont jamais arrêtés aux frontières naturelles. C'est la continuation d'une diplomatie, parce que ce qu'on comprend...
Ils se défendent quand même, les révolutionnaires.
Oui. Écoutez, qu'on ne comprenne pas aujourd'hui ce long temps de la diplomatie, c'est normal, puisqu'aujourd'hui on allume des bougies, on berce des nounours, et puis on n'aime pas les hommes politiques parce qu'ils ont une sale tête. Mais le problème, c'est que la diplomatie, ça ne change pas en 5 minutes. Vous voyez, ce sont des choses qui durent. Et par exemple, le conflit franco-anglais, il est aujourd'hui, quand on regarde la diplomatie des deux pays, enfin traditionnelle, c'est exactement la même chose qu'en 1800. L'Angleterre ne veut pas d'organisation européenne avec une puissance hégémonique ou deux puissances hégémoniques, l'axe franco-allemand. Et d'un autre côté, les continentaux essayent toujours de s'organiser, de créer un système, etc. Et là, il y a un choc évident. Séculaire qu'on a résolu sans guerre depuis 70 ans.
Et qui sont les ennemis de Napoléon ? Des forces progressistes ?
Non. Alors ça, c'est encore autre chose.
Non, mais c'est aussi le nœud du débat. En fait, ces monarchies n'acceptaient pas Napoléon sur le trône. En 1815, quand il revient de l'île d'Elbe, elles s'assemblent et le déclarent hors la loi, l'appellent le perturbateur du repos du monde. Mais en fait, ils ne peuvent pas accepter cette irruption dans leur rang, sur cette scène. En fait, ce ne sont pas des forces progressistes, c'est la Russie tsariste qui pratique le servage. C'est l'oligarchie britannique qui est tout sauf démocratique. Il y a d'ailleurs, en Angleterre, à ce moment-là, il y a 3 fois plus de prisonniers politiques qu'en France, que sous l'Empire.
Je veux dire, ce sont des monarchies. Rappelez-vous dans votre livre.
Oui, je veux dire, je veux dire, on n'est pas, si je puis dire, dans le camp. Enfin, il n'y a pas un camp du bien contre le camp du mal. Je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Mais je veux dire, cette Europe-là refuse l'égalité du code civil, refuse aussi la mise à l'écart de la religion, refuse un certain nombre de choses. C'est un monde qui est en train de s'écrouler, qui va être d'ailleurs réagir et gagner, l'emporter sur Napoléon.
Il y a quand même une chose qui est très importante, c'est que pour comprendre la complexité de cette époque, Il faut peut-être revenir, Thierry Lenz, alors là, ça n'est plus la liste des reproches que l'on pourrait faire à Bonaparte ou à Napoléon, mais à la mentalité de l'époque. Et ça, j'aimerais qu'on en dise un mot. Car est-ce que le nœud de tout cela n'est pas là, à la conception que l'on se faisait au XIXe siècle du mot « gloire » et à la conception que l'on se fait au XXIe siècle du mot « bonheur » ?
Écoutez, 17e, 18e, 19e siècle, même avant, la gloire est un des objectifs de vie. Alors, nous, on ne le comprend pas, puisqu'aujourd'hui, la gloire, c'est un triplé d'un joueur de football, et il a donc de la gloire pendant une semaine. À l'époque, c'est une chose qui est presque institutionnalisée par les souverains et dans les élites, et qui est une bonne raison de vivre, enfin, la raison de vivre, et parfois aussi une bonne raison de mourir. Ce que fait Napoléon avec cette idée de gloire, parce que c'est un homme à système, c'est un homme qui réfléchit toujours à la façon dont il peut utiliser les choses, c'est qu'il va démocratiser la gloire, si l'on veut, c'est-à-dire qu'il va la partager. Il va créer ce qu'un historien américain a appelé l'économie de la gloire. C'est-à-dire qu'il y aura bien sûr la gloire du souverain, évidemment, hein, qui est le plus glorieux, mais que tous ceux qui ont participé à cette gloire, le jour de gloire est arrivé pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va faire des pensions, on va faire des décorations, on va créer des groupes sociaux qui réuniront les méritants, enfin, etc. Et ce qui fait qu'il a compris, comme l'évoquait Pierre tout à l'heure, que l'époque a changé, qu'on n'est plus entre élites, que maintenant on a une forme de, non pas de démocratie, mais d'opinion publique.
Mérite.
Qui s'est créée, voilà, et qu'il faut, annexer cette opinion. Parce que si on veut continuer à gouverner, il faut trouver des moyens d'annexer ce qu'on appelle l'opinion publique. C'est ce que la République française a trouvé avec la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est le peuple qui se départit d'une partie de son pouvoir pour la confier à des représentants.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a été, comme certains l'ont dit, pardon de revenir à la littérature, un formidable professeur d'énergie ?
C'est Barrès. Vous citez Barrès dans cette émission, formidable. Bien sûr.
On a les idées très larges. On était avec Jean-Marc Ayrault tout à l'heure.
Mais celui qui a le mieux défini Napoléon, c'est au final Chateaubriand quand même. Il l'a qualifié.
Lequel ?
De celui des mémoires
d'autre temps. Le bonapartiste ou alors l'anti-napoléonien ?
Il n'y a pas de divergence vraiment entre l'ultra-monarchiste et le bonapartiste. C'est ça le problème. C'est Chateaubriand.
Il l'appelle le poète en action. Et Chateaubriand dit Napoléon a réussi parce qu'il a réussi à frapper l'imaginaire des peuples. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, on peut débattre entre historiens de la complexité des choses politiques, etc. Mais Napoléon a réussi, qu'on le veuille ou non, à atteindre l'imaginaire des gens. C'est-à-dire, c'est Bonaparte au pont d'Arcole, c'est Bonaparte aux pyramides, c'est aussi la campagne de Russie, c'est aussi la glorieuse défaite de Waterloo, etc. Ce sont toutes des images, en fait, impressionnantes et qui ont créé plusieurs imaginaires. Celui de Sainte-Hélène aussi, alors ça, il n'en est pas responsable, mais des imaginaires qui soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Mais je veux dire, il a touché quelque chose qui est très difficile à atteindre. Parce que s'il n'avait été que dans la rationalité, s'il n'avait eu finalement qu'un règne rationnel et, je veux dire, totalement comme ça, centré sur les choses matérielles, même juridiques, etc., il n'aurait pas finalement réussi. C'est là où il a touché. Chateaubriand a bien trouvé. C'est cela. C'est qu'en fait, c'est ce déclenchement des passions, c'est ce déclenchement à travers un imaginaire. Alors qu'on l'attaque, qu'on le glorifie, qu'on soit mesuré avec lui, ou qu'on... voilà, de toutes les passions. En fait, c'est ça, me semble, le nœud. Et Chateaubriand, effectivement, là, à la fin, mémoire d'outre-tombe, mais enfin, à la fin de sa vie, on a peut-être un peu plus d'expérience qu'au début. Donc, dans les mémoires d'outre-tombe, il décrit ça de manière, effectivement, je pense, presque définitive. C'est-à-dire que si Napoléon, si on parlera encore de Napoléon dans 100 ans, 200 ans, ça sera sans doute parce que, voilà, on a un imaginaire fantasmé, sans doute, critiquable, évidemment, mais voilà, qui frappe. Et ça, c'est un communicant de génie, c'est, voilà, son chapeau est un emblème en lui-même, enfin, tout cet univers napoléonien, finalement, c'est lui qui fascine aussi. C'est pas seulement, voilà, qu'une partie, on va dire, politique, juridique, ou tout ce que, très importante, j'en conviens, mais voilà, ça peut être aussi, effectivement, Jean Tullard, notre maître à tous, l'a défini, le mythe du sauveur. sauveur qu'on critique, je veux dire, qui a sans doute entraîné la Ve République, etc. Mais je veux dire, c'est tout un défilé d'images, et d'ailleurs, un petit peu, chacun a son Napoléon, un petit peu aussi.
Hein. Ah, ça, je vois bien que chacun a son Napoléon autour. Sauf Bruno Fulini, qu'on n'a pas encore entendu, mais je vous connais, et je pense qu'il se réserve pour tout à l'heure. Alors, puisque chacun a son Napoléon, on va poursuivre et essayer d'avancer un petit peu en ouvrant la biographie de Pascal Fautrier, mais juste avant, puisque vous évoquiez les images de Napoléon, je vous propose un petit détour par les librairies. Vous savez, dans chaque émission, on pousse la porte d'une librairie, si possible indépendante, et puis quand il y a des émissions thématiques, on leur demande ce qu'ils ont à nous mettre sous les yeux. Là, en l'occurrence, Inès de la Motte Saint-Pierre s'est rendue chez Mola à Bordeaux, où évidemment, tous les livres sur Napoléon sont présents, mais vous allez voir, elle a été demandée à Pierre Coutel ses conseils. Il paraît qu'il y a plus de livres écrits sur Napoléon que de jours écoulés depuis sa mort. Faites le calcul, c'était il y a 200 ans. Regardez.
Le livre drôle, c'est vraiment La mort de Napoléon de Simon Leys. Il imagine un processus génial. Napoléon n'est pas mort à Sainte-Hélène. Grâce à un grand complot, finalement, Napoléon a réussi à se faire remplacer par un sosie. Ce que montre Simon Leys, c'est que non seulement on peut faire de l'humour avec un mythe, mais surtout, il faut faire de l'humour avec un mythe. C'est comme ça qu'on déconstruit le rapport au pouvoir, c'est comme ça qu'on est lucide, et c'est comme ça que, dans la lignée d'Orwell, on devient des citoyens lecteurs. Napoléon vu de l'étranger, c'est les guerres napoléoniennes, une histoire globale de Mika Beretze. Alexander Mika Beretze fait le parti de raconter comment les guerres napoléoniennes ont changé la face du monde. C'est la façon dont les idées de la Révolution, les idées Lumière, vont infuser dans le monde entier, créant un souffle de liberté. Et évidemment, par exemple, le vent d'indépendance en Amérique latine est un produit des guerres napoléoniennes. De la même façon, en Islande, par exemple, va se créer une sorte de petite république. C'est un livre qui ouvre complètement l'esprit et donne à l'aventure napoléonienne une visée mondiale. Le livre fou, c'est Adieu de Balzac. Adieu, c'est simplement deux hommes qui se promènent dans un parc et qui voient une femme comme ça qui se promène hébétée, qui répète adieu, adieu, adieu. Et ils finissent par comprendre que cette femme, en fait, est une rescapée de la retraite de Russie, de la Bérézina. Et ils ont une idée complètement démente. Ils se disent, en fait, pour la faire sortir de sa folie, on va reconstituer l'épisode de la retraite où elle a perdu son amour pour qu'il se passe quelque chose. C'est une nouvelle absolument bouleversante parce qu'elle montre comment les guerres napoléoniennes ont finalement traumatisé toute la société et comment elle a touché aussi bien les femmes, les soldats, les civils, les militaires, tout le monde a été pris dans cette espèce de démence collective. L'anti-Napoléon, c'est bien sûr le livre de Jean Tullard. Jean Tullard, en 1965, va rassembler tout un tas de textes contre Napoléon. Des textes complètement fous, certains scabreux, certains assez malins, certains drôles, certains profonds. Ce qui est absolument saisissant dans ce livre, c'est qu'on se rend compte que tout le monde haït Napoléon. Que ce soit les Anglais, que ce soit les royalistes, que ce soit les libéraux, que ce soit les révolutionnaires, que ce soit évidemment tous les pays d'Europe qui l'a envahi. La grande question de Jean Tullard, c'est pourquoi finalement cette légende noire ne s'est pas imposée? Pourquoi finalement le souvenir de Napoléon est plutôt positif? Il a cette phrase, Attila n'est peut-être qu'un Napoléon dont il n'est resté que la légende noire.
Légende noire, légende dorée, on va simplement faire de l'histoire et plus de la légende, même si vous avez compris que chacun a son point de vue, sa manière aussi de faire de l'histoire et évidemment son interprétation tout à fait libre. Mais jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien, même si j'ai bien compris qu'il y avait des points irréconciliables. Pascal Fautrier, je disais tout à l'heure pour vous présenter que vous étiez, j'allais dire, une littéraire égarée du côté de chez Napoléon. Vous avez commencé par travailler sur Nathalie Sarraute et Simone de Beauvoir. Ce qui m'a beaucoup plu dans vos livres, c'est qu'il y a une interrogation, à minima, sur le mythe littéraire de Napoléon. Vous insistez beaucoup sur la vérité de l'histoire et ce qui a été raconté dans le mémorial de Sainte-Hélène, dicté à Lascaz, à partir de 1815. Est-ce qu'il s'agit d'une falsification? On va en parler. Vous insistez aussi beaucoup sur ce qui précède l'Empire, c'est-à-dire la Révolution, on en a parlé également. Et puis sur le rapport de Napoléon, l'homme, au peuple. Ah, alors ça aussi, c'est une grande question. C'est assez compliqué d'écrire une biographie, car se pose la question de la place de l'individu dans l'histoire. Alors, Napoléon, après ce que vous avez entendu, c'est un visionnaire dont les décisions ont été, allez, pesées d'avance, avec toutes les implications possibles et imaginables, ou alors est-ce qu'il est favorisé par le tourbillon de l'histoire sur lequel, à la fois, il surfe et n'a pas de prise ?
Alors, il y a un grand paradoxe dans le mémorial de Sainte-Hélène, c'est que les deux idées sont présentes. C'est-à-dire, à la fois, Napoléon lui-même dit qu'il est le produit des circonstances. Enfin, c'est quand même une chose qui est beaucoup, répétée. Et puis, en même temps, il y a la construction. Et je pense que vraiment, c'est le mémorial de Sainte-Hélène qui est le moment inaugural du mythe littéraire napoléonien. Et il y a vraiment la construction d'un mythe littéraire. Donc, il y a ces fameuses phrases de Napoléon lui-même, « L'imagination gouverne le monde ». Quel roman que ma vie.
Quel roman,
quel
pourtant,
roman pourtant
que ma vie. Et pourtant, peut-être que tout est dans le pourtant, non?
Oui, ça n'avait pas très très bien commencé dans les années 1794-1795. On ne va pas rentrer dans le détail de ça.
Non, mais peut-être rappeler qu'à l'époque, en 1794-1795, c'est un général à qui on retire son commandement, qui se retrouve un tout petit peu spectateur et non plus acteur de cette histoire qu'il a tant envie de faire.
Oui, alors je trouvais très intéressant ce que disait Thierry Lenz sur la question de la gloire tout à l'heure, parce que je pense que c'est la question fondamentale. Lascaz insiste beaucoup sur cette idée que Napoléon restera dans l'histoire parce qu'il opère une synthèse entre une mentalité de l'Ancien Régime. Sur ce plan, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas, l'anachronisme de Napoléon aujourd'hui, ce n'est pas une question de différence de mentalité entre notre époque et la sienne.
C'est quoi,
c'est
alors
plus compliqué que ça. Il opère une synthèse entre un monde qui est celui de la gloire, qui est clairement celui de l'Ancien Régime, d'une certaine conception de la subjectivité qui est clairement celui de l'Ancien Régime, et puis une conception de la subjectivité qui est en train de naître, qui va naître avec la Révolution et avec l'Empire, et qui va être totalement liée dans une émission littéraire à la naissance de la littérature. Puisque la littérature, au sens où on l'entend, elle naît avec Madame de Staël, cette qui est d'abord donc séduite, et puis ensuite qui va être l'opposante de Napoléon. La littérature naît à ce moment-là, et le grand genre littéraire de la littérature, enfin, le mot apparaît à ce moment-là, c'est le réalisme classique. Et on peut dire que Napoléon Bonaparte, c'est le personnage, c'est le degré zéro du personnage pour le réalisme classique, qui est quand même le genre dominant depuis deux siècles.
Qu'est-ce que ça veut dire, le degré zéro du personnage ?
Ça veut dire que la construction même d'un personnage, c'est-à-dire l'idée anthropologique dont je parlais tout à l'heure, qu'une personne humaine peut construire son destin indépendamment de son conditionnement originel social, c'est une idée qui naît avec la Révolution et que Bonaparte va incarner sur un plan...
C'est ce que dit Thierry Lenz, c'est ce qu'écrit Thierry Lenz.
Pas tout à fait. Sur un plan imaginaire et mythique. Et en fait, il fait la liaison entre la gloire au sens de l'Ancien Régime, parce que la gloire, ce sont des personnages qui sont déjà distingués de naissance, les glorieux, sous l'Ancien Régime. Et Napoléon est considéré comme, c'est pas vrai, c'est un patricien corse, c'est pas du tout un type qui est venu de nulle part.
Mais comme d'ailleurs toute son armée. Hein. Bon. Je crois, Pierre Brandac, c'est vous qui faites la liste impressionnante de tous ses camarades, entre 22 et 25 ans. Ils sont tous issus de familles défavorisées.
Pas quasiment tous. Pas du tout, faut pas exagérer.
Mais c'est vrai que c'est une jeunesse, c'est une génération qui arrive.
Si vous prenez les Hoches, si vous prenez les Carnot, si vous prenez les Lannes, les Serruriers, Lefèvre,
tous ceux
qui sont les grands maréchaux, voyons.
Oui, mais ce n'est pas au niveau du réel qu'il faut prendre les choses. Parce que Bourret de Vézelay, grand financier du début du XVIIe siècle, c'était un fils de laquais. Et on est avant la Révolution française. Donc des transfuges, il y en a toujours eu. Et il n'y en a pas tant que ça après la Révolution française non plus. Mmh. On est au niveau du mythe. On est au niveau de la croyance. C'est-à-dire que Napoléon, il va incarner une croyance qui est qu'on entre dans l'ère moderne de la possibilité de faire de sa vie quelque chose qui est différent de son conditionnement social. Ce n'est pas si vrai. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai encore aujourd'hui.
Alors,
il va représenter ce mythe-là. Ouais. En fait.
Est-ce que vous diriez que ce sont les écrivains, notamment, qui ont contribué à la popularité de Napoléon, quand on a de Musset à Vigny, en passant par Victor Hugo et ses Misérables en 1860?
Il n'y a pas de réalisme en littérature sans le modèle du personnage qui construit sa vie et qui forge son destin, c'est vraiment l'expression. Il n'y a pas de littérature sans Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire, tous les grands écrivains du réalisme classique, que ce soit Stendhal, qu'il n'aime pas beaucoup, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ça revient, se positionnent par rapport à lui.
Je voudrais revenir sur un des points de votre biographie. Alors, vous tentez de relever le défi de rentrer aussi dans la tête de Bonaparte, de comprendre aussi la psychologie du personnage sans faire de réduction à la psychologie. Alors, vraiment la corde raide du biographe. Il y a un passage que je trouve saisissant qui est peut-être une des clés de la compréhension de Bonaparte et de Napoléon plus tard. c'est la journée du 10 août 1792. Vous allez nous rappeler ce qui s'est passé ce jour-là, mais vous nous dites surtout, à partir de ce jour, à compter de ce jour, Napoléon nourrit une peur presque panique du peuple. Pour quelles raisons et que s'est-il passé, rappelez-nous, le 10 août, la fameuse journée
mais
du 10 août.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ses opposants libéraux, Benjamin Constant en particulier, vont ressentir exactement la même chose que Napoléon Bonaparte le 10 août. Le 10 août, ce qui se passe quand même, c'est l'irruption d'un peuple qui n'est pas prévu au programme. Alors, je laisse de côté le mot peuple parce que c'est un mot compliqué, mais il y a des gens qui arrivent sur la scène de l'histoire qui ne sont pas prévus au programme des Lumières, qui ne sont pas prévus au programme des révolutionnaires de 1789.
Alors ces gens, c'est les gens du faubourg de Paris. Ce sont, c'est ce qu'on appelle le petit peuple, c'est le peuple en colère, et il va faire irruption aux Tuileries.
Mm-hmm. C'est également des fédérés qui sont venus des provinces aussi. Hein, c'est pas que...
Parce que la patrie c'est également des gens qui les manipulent aussi.
De qui a-t-il peur ? Est-ce qu'il a peur des fédérés, c'est-à-dire en gros de ceux qui viennent de Marseille notamment ? Est-ce qu'il a peur de ce peuple qu'il voit incontrôlable et qui égorge 600 des gardes ? Est-ce qu'il a peur de ceux qui les manipulent, c'est-à-dire les hébertistes notamment ?
Alors, il y a un mépris de Napoléon, qui n'est pas du tout un homme du peuple en réalité, et pas du tout un homme de ce peuple-là, il y a un mépris pour ce qu'il appelle la canaille. Et qu'est-ce que c'est que la canaille chez un personnage qui au départ appartient à un milieu très clanique, le milieu corse, c'est un patricien corse, mais c'est ceux qui n'ont pas de bien. Ce sont ceux qui n'ont pas de biens, qui n'ont pas d'assises sociales. Tous ces gens-là sont des gens que Napoléon méprise, qui n'existent pas dans son imaginaire politique.
Le mépris, c'est une chose, mais la peur, c'est autre chose.
Et qui, du coup, lui font peur, puisque ce sont des gens qu'on ne peut pas faire entrer par une rhétorique, par le langage, dans la domination de la loi. Puisque au départ, c'est quelqu'un qui considère que le centre de la politique, c'est le fait de faire des lois. Donc de ce point de vue, Thierry Lenz, c'est vraiment dans la lignée de ce qui est, à mon avis, l'os du bonapartisme. C'est-à-dire que le fait de considérer que c'est la loi et que c'est l'obéissance à la loi qui garantit l'ordre public.
Alors,
Pierre Branda, Thierry Lenz, et alors, ensuite,
il ne faut pas oublier aussi que c'est un militaire. Pour lui, l'affrontement, c'est sur le champ de bataille. En fait, Napoléon est un homme d'ordre et c'est un petit peu chaque chose à sa place. Thierry Lenz l'a dit, les militaires ne sont pas au gouvernement. Mais les militaires sont sur le champ de bataille et les civils n'ont pas à affronter, en fait, à créer une situation militaire. Donc, en fait, et il n'est pas le seul à penser cela. Je veux dire, c'est toute l'époque qui est comme ça. C'est-à-dire que dès que des civils, si je puis dire, deviennent violents et vont vers la guerre et le combat, c'est une répression terrible, mais quel que soit le pays, soit les Anglais, les Français, etc. Ça, et donc, avec Napoléon, qui est avant tout un homme d'ordre et qui, effectivement, devant cette journée du 10 août, qui pour lui est apocalyptique et cauchemardesque, effectivement, en vient à la réprouver, à dire j'aurais fait tirer au canon.
Je crois qu'on a. Tourner autour du problème du 10 août, il faut juste dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Napoléon est en espèce de vacances à Paris, si on veut. Enfin, il est en train de s'occuper de ses dossiers. Il habite pas très loin des Tuileries. Et puis, dans la journée, ils entendent l'émeute, très limitée, etc. Et avec Bourrienne, il va se promener sur le champ de bataille. Enfin, le faux champ de bataille. Et là, il voit ce que ce peuple généreux est en train de faire, c'est-à-dire de massacrer la garde suisse. Vous parliez de 600, on dit plutôt 900, mais enfin bon, allez, on va dire 600. Et il assiste à ça. Et il voit, il le raconte à plusieurs reprises d'ailleurs, il voit des comme il le dit à un moment, j'ai vu des femmes se livrer aux pires excès sur le cadavre des Suisses, etc. Et c'est ça qui va l'effrayer. Et donc,
Est-ce que ça joue dans la constitution de l'empereur qu'il deviendra ?
Alors, je ne pense pas que la scène du 10 août va avoir une importance, mais je pense que dans les élites du temps, l'idée de donner le pouvoir à ces gens-là, ça ne leur vient même pas à l'idée. D'où, au départ, un suffrage à plusieurs degrés. On élimine au fur et à mesure et on arrive aux élites, d'où la proposition des candidats à partir des listes de notabilité, et d'où plus tard le suffrage censitaire, le suffrage universel indirect, etc. C'est pour empêcher cette partie du peuple qui s'est livrée aux excès le 10 août, mais à d'autres moments de la Révolution, de gérer les affaires, en quelque sorte.
cette partie du peuple qui est misérable, qui est totalement écrasée.
Sur le 10 août, on a bien étudié les émeutiers du 10 août. C'est quand même pas... C'est plutôt les artisans du Faubourg Saint-Antoine. Ce sont des gens...
Et les gens qui
sont...
travaillent pour les maîtres artisans.
Je oui, sens mais... à vous lire, comme à vous entendre, Pascal Fautrier, on a le sentiment, parce qu'il y a 10 ans qui séparent votre biographie de Napoléon, qu'on trouve encore en poche, et le Paris de Napoléon, qui va paraître dans quelques temps, chez Alexandrine.
Le 6 avril.
On vous sent de plus en plus éloigné de Napoléon, oui. Et pourtant vous y revenez.
Oui, je vais citer le dictionnaire Tullard. Mmh. Je suis désolée, je ne me suis pas servie de votre dictionnaire puisqu'il n'était pas encore paru. L'article « Femme » du dictionnaire Tullard, donc, ce qui explique mon éloignement progressif vis-à-vis de Napoléon. L'article commence comme ça. « À l'ère des conquêtes, la condition féminine s'inscrit d'abord dans la perspective de la guerre. » Donc elle met en perspective la condition de la femme sous l'Empire. Les femmes doivent, elles aussi, servir la victoire. Leur beauté enchantera l'âme des héros, donc là on est vraiment dans la gloire d'Ancien Régime. Leur fécondité repeuplera les légions. Elles n'ont pas, officiellement, d'autres raisons d'exister. L'article se termine de cette manière-là. Alors je pourrais vous en lire d'autres passages. Hein. L'article d'Yvonne Kliméner, qui n'est pas à ma connaissance quelqu'un de, voilà, de radical sur le plan... Voilà. Les codes napoléoniens comptent parmi les plus durs que les femmes aient jamais eu à subir.
Et vous écrivez dans votre livre que Napoléon les fait passer pour d'éternels mineurs.
Alors, ce n'est pas Napoléon, c'est le code civil. C'est-à-dire que, de fait, dans le code civil, d'ailleurs, dans un statut qui est très proche de celui des esclaves ou des gens qui sont tout à fait privés de droits, les femmes n'ont absolument aucun droit. Le mari peut les faire enfermer pour adultère, par exemple, de la même manière que le père peut faire enfermer ses enfants. Donc on revient à quelque chose qui est très proche de l'Ancien Régime. Le viol. Je peux vous citer le dictionnaire Tullard sur ce point.
Si vous permettez sur ce point-là, Napoléon quitte le pouvoir en 1815. Bon, admettons, je ne partage pas votre avis, qu'il soit le misogyne que l'on décrit. Mais il faut attendre 1960 pour que le féminisme émerge. Je veux dire, si ce n'était pas un mouvement sociétal d'ampleur...
Bien sûr que non.
Mouvement sociétal d'ampleur, en 1816, les femmes seraient revenues sur le devant de la société. C'est d'abord la Révolution française qui, après avoir accepté quelques égéries féminines, dont Olympe de Gouges, qui est la Déclaration des droits de la femme, l'a guillotinée. Bon, je veux dire, Napoléon n'est pas responsable de ce qui s'est passé entre 1815 et 1960, 70, 80 et encore aujourd'hui. Je veux dire, le rendre responsable de tout, c'est aussi, c'est lui rendre finalement un hommage encore plus grand, parce que ça veut dire qu'il aurait tout conditionné comme ça et tout voulu.
Mais mon point de vue n'est pas celui d'un pamphlétaire, c'est-à-dire que je ne pense pas du tout que parce qu'il était mauvais, il a pris de mauvaises décisions politiques. Hein, c'est ça le pamphlet.
Oui, c'est pas le rapport entre le caractère de l'homme et son œuvre.
À aucun moment.
Non, mais je ne dis pas ça.
Je ne fais un rapport, si vous voulez, direct entre une personnalité et des décisions politiques. J'essaye de les penser. Donc il y a à la fois une détermination, mais il y a aussi une part de liberté, il y a une part de circonstances, etc., etc. Bon, mais on pourrait continuer sur le code civil de 1804, et je ne suis pas d'accord avec vous qu'au moment de la Révolution, et d'ailleurs les personnes, Thérouanne de Méricourt, Olympe de Gouges, sont des personnalités,
oui.
Thérouanne de Méricourt qui était emprisonnée sous l'Empire comme folle, dans des circonstances assez troubles. Bon, mais ce n'est pas vrai qu'il n'existe pas, on pourrait citer même Suzanne Necker, et les préoccupations de Suzanne Necker, même si elles sont très ambiguës, et de sa fille Germaine de Staël. Au contraire, la question de la place des femmes dans la société naît aussi, bien sûr, avec la Révolution française. Donc je suis vraiment en désaccord avec vous. Ça va être encore plus visible en 1848, où c'est une question qui est très peu étudiée, mais où il va y avoir vraiment une explosion des écrits de femmes en 1848. Mais c'est aussi le cas pendant la Révolution française. Donc malgré tout, on a un code civil qui est en rupture avec quelque chose qui naît. Et on retombe d'abord d'ailleurs sur cette question dont on parlait tout à l'heure. Je suis désolée, c'est une question politique, mais sur le rapport entre cette synthèse de l'ancien monde et du nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui naît et que Napoléon la referme, malgré tout. Exactement comme sur la question de l'esclavage, d'ailleurs. C'est quand même la terreur hein, qui abolit l'esclavage, c'est pas le directoire, enfin, par ailleurs.
Mais c'est aussi, enfin, je veux pas revenir là-dessus, non, mais c'est aussi lié aux révoltes d'esclaves et d'hommes de couleur dans les colonies.
Hein. Entièrement d'accord. Voilà. De la même manière, oui, bien sûr. Je continue l'article de Knibeler sur une phrase. Aussi bien le code civil de 1804 refuse-t-il aux femmes le statut d'être humain à part entière.
Oui, mais ça, c'est
d'être humain.
Pascal Fautrier, citez-moi.
C'est pas une publication islamo-gauchiste, hein, c'est dictionnaire Tullard.
Non, mais Pascal Fautrier, citez-moi une seule révolution qui a porté les femmes au pouvoir. Citez-moi-en.
Alors, écoutez,
il n'en a pas. Les seules femmes qui ont réussi à arriver au pouvoir, ce sont dans des régimes qui ne sont pas nées des très longtemps des révolutions.
Et c'est pour ça que je préfère la littérature à l'histoire.
Non, mais la révolution n'a jamais enfanté
le réchauffement. Je pense que la littérature, grâce à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, est une sorte de chambre d'écho extraordinaire de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire la prise en compte des singularités.
La littérature.
Au-delà de la question du genre, mais la prise en compte des singularités. Et que c'est une question démocratique fondamentale. Et la possibilité pour des singularités de s'exprimer, qui est une question extrêmement grave. Parce que contrairement à ce que Hugo a imaginé à son époque, même l'école républicaine n'a pas résolu ce problème. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une possibilité réellement de s'exprimer, qui est une question au cœur de la littérature depuis deux siècles, c'est une question à la fois littéraire et démocratique et politique. Et c'est une question très grave. Je préfère être littéraire qu'historienne de ce point de vue, parce qu'effectivement, ça c'est assez désespérant d'être un historien de ce point de vue.
Non, mais vous avez raison que la littérature est au cœur du processus de la légende napoléonienne. Et Napoléon a eu cette chance formidable d'avoir Vigny, Dumas, Balzac, je ne vais pas tous les citer. Moi, j'ai dit toujours, il a eu les attachés de presse les plus formidables.
Ouais, alors, le mémorial de Sainte-Hélène, par exemple, c'est-à-dire dicté depuis son exil par Napoléon à Las Cases, est-ce que c'est de la littérature, est-ce que c'est de la propagande, est-ce que c'est de l'histoire?
Alors c'est devenu un petit peu de tout ça là, après, à la publication, car Las Cases écrit son mémorial entre 1815 et 1816. En fait, il quitte l'exil assez tôt finalement, et quand on a retrouvé le manuscrit, le journal original de Las Cases, on s'aperçoit que la version écrite à chaud est en fait assez différente de l'œuvre littéraire 1823, parce qu'en 1823, Napoléon est mort et qu'il faut en quelque sorte composer des mémoires d'outre-tombe, déjà avant l'heure, où finalement la parole que recueille Las Cases est la dernière parole de quelqu'un qui va s'éteindre et qui comme ça va disparaître, et donc ça donne une dimension
Las
tragique.
Cases, entre son retour en 1816 et la publication en 1823, a 5-6 ans devant lui gommer.
Il récupère son journal qu'en 1821, les Anglais l'ont saisi. Donc il aura 2 ans pour effectivement le retravailler. Et en 1823, les premiers tomes sont un grand succès. Donc en fait, il va un petit peu tirer à la ligne. Il a un talent littéraire. Et donc comme ça, un petit à peu près triplé environ son journal. Si son journal en fait était paru, ce qui était le plan d'origine en 1817, c'est-à-dire Las Cases n'était pas destiné à rester jusqu'à la fin avec Napoléon, sans doute son journal serait-il tombé dans les polémiques d'époque, qui serait devenu un objet polémique, il n'aurait pas eu cette postérité. Non, Las Cases a eu de la chance de pouvoir retravailler son manuscrit, de le publier qu'en 1823 et de dire, voilà, moi j'ai recueilli les dernières paroles de l'empereur.
Est-ce que ces dernières paroles font acte d'histoire et est-ce que c'est la vérité?
Alors, c'est une vérité parmi d'autres. Il y a des aveux en histoire, il y a des confessions que l'on peut reprendre, mais enfin, c'est un discours qui est évidemment fabriqué, qui est fabriqué pour le temps aussi, pas seulement pour la postérité. On a toujours pensé que Napoléon, à Sainte-Hélène, n'avait que travaillé sa postérité. C'est en grande partie faux, parce que Napoléon espère bien se sortir de cette captivité tout de même.
Alors ça, c'est l'un des grands, une des grandes nouveautés de votre approche du confinement de Sainte-Hélène. Pierre Branda, dans ce livre « Napoléon à Sainte-Hélène », c'est que vous rompez avec l'image que l'on a pu entretenir d'un Napoléon résigné, fataliste, malade, qui, du jour où il pose le pied sur le navire qui va le mener à Sainte-Hélène, se laisse mourir. Vous, vous dites pas du tout. Il n'abandonne jamais ni la gloire dont parlaient Thierry Lenz et Pascal Fautrier, ni l'espérance, écrivez-vous. Mais qu'espère-t-il ?
Il espère, en fait, se sortir de là par le haut. Il dit, effectivement, il dit à Lascaz, je pourrais me jeter à l'eau et en disparaître rapidement, mais il dit, il est pénible et difficile d'en finir avec l'espérance et la gloire. Et cela définit assez bien Napoléon, c'est-à-dire qu'il veut sortir par le haut de cette histoire. Il ne veut pas s'évader. Il y a eu des projets assez fous, plus fous les uns que les autres, mais Napoléon veut sortir la tête haute et être finalement ramené en Europe ou voir sa captivité changer à la faveur d'une solution politique en Angleterre. Parce qu'en fait, là, Napoléon, dans sa captivité, va devenir un acteur politique anglais. Et a compris les divisions, parce que si on dit toujours que les Gaulois, enfin que nous, Français, héritiers des Gaulois, nous sommes toujours très divisés, en fait, les Britanniques sont fracturés, et les fractures sont profondes entre les nationalités, politiquement. Et donc Napoléon va jouer de ces divisions. Il sait par ailleurs qu'il est très populaire en Angleterre. Quand il s'est rendu près des côtes anglaises, des milliers de personnes sont venues l'acclamer, même porter un signe bonapartiste à la boutonnière. Une exposition de Napoléon à Londres ouvre en 1816, 200 000 visiteurs en 3 mois. Elle fera deux ans de tournée en Angleterre. Enfin, il y a un mouvement parce que la société britannique est profondément inégalitaire à ce moment-là. Et les historiens britanniques estiment d'ailleurs qu'elle est même dans une situation pré-révolutionnaire, tant le gouvernement de Lord Liverpool, celui qui exile Napoléon à Sainte-Hélène, est réactionnaire, en fait.
Alors, ça, c'est pour le contexte, et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure, mais en souriant à Thierry Lenz, que votre ami Branda avait fait, comme Boucheron, une histoire mondiale de Sainte-Hélène, puisqu'on est presque du côté de l'ennemi pour comprendre. Mais on comprend mieux, hein, quand on est dans les papiers de Lord Liverpool. Il y a quand même des questions qui se posent, Pierre Branda, et je voudrais qu'on revienne au tout début de Sainte-Hélène, parce que pour vous, le début de Sainte-Hélène, c'est pas Waterloo. C'est le lendemain de Waterloo, c'est l'abdication, les quelques jours qui précèdent l'abdication, le 22 juin 1815. Et alors, à vous lire, c'est vrai que le livre se lit comme un roman, on se dit, mais il y a quand même fou, parce qu'il y a énormément d'occasions qui sont données à Napoléon de reprendre le contrôle de la situation. Pour quelles raisons, par exemple, ne rejoint-il pas, après l'abdication, ces deux armées, l'armée de la Loire, l'armée de la Gironde, qui sont fidèles, avec des commandants qui sont à la tête d'une armée nombreuse? Pour quelles raisons ne décide-t-il pas de s'enfuir, comme on le lui propose, avec trois ou quatre plans qui, par ailleurs, réussissent quand d'autres les mettent en pratique? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Napoléon à ce moment-là?
Alors, si Napoléon est conscient d'avoir réussi son entrée sur la scène de la grande histoire, il est aussi conscient qu'il faut s'y maintenir le mieux possible et peut-être en sortir le plus dignement possible. Rejoindre l'armée de la Loire, il le laisse entrevoir, il dit « je peux, si vous voulez, redevenir un général et combattre à nouveau », mais il sait aussi que tout ça implique une guerre civile. Et s'il rallume une guerre civile en France, je veux dire, il n'en veut pas de cela. Il le dit d'ailleurs assez clairement. Après, passer en Angleterre, dissimulé dans un tonneau, en prenant l'identité de son frère, etc. Est-ce que c'est vraiment digne de lui ? Peut-on imaginer Napoléon capturé par les Anglais et trouvé dans un tonneau ? Je pense qu'on ne serait pas là ce soir pour parler de lui.
Mais alors vous dites que ceux qui ont joué le coup du tonneau n'ont pas été capturés par les Anglais.
Non, parce qu'ils...
Vous racontez également que tous les marins de l'époque et même d'aujourd'hui disent « mais enfin, finalement, il a deux navires.
Ah oui,
enfin,
il y a
un pauvre truc qui fait vaguement obstruction, mais n'importe quel mauvais marin serait passé de toute façon. »
Oui, oui, oui.
Je veux bien qu'il y ait la question de la dignité et de la gloire dont parlait Hélène tout à l'heure, mais enfin... L'idée de poursuivre le combat, l'idée de revenir, a-t-elle totalement déserté Napoléon après 1815 ?
Oui, à ce moment-là, il pense que ce n'est pas la meilleure solution. Napoléon est quelqu'un qui va toujours être à la recherche d'une solution à laquelle personne n'a pensé. Napoléon, c'est un personnage surprenant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il fait tant peur aux Anglais qui vont concevoir pour lui une prison gigantesque, hein, probablement la plus grande prison qu'on ait conçue dans l'histoire pour un seul homme. Parce qu'on a peur de ce personnage imprévisible, capable de tout, et de renverser comme ça l'échiquier à un moment où on ne s'y attend pas. Et donc, il est comme ça, ce caractère, cette énergie fait que tout le monde le craint, en réalité.
Comment expliquez-vous le fait qu'il n'ait pas compris la peur qu'il inspirait, dont vous parlez ? Il dit quand même aux Anglais, bon, je me rends, mais alors moi, je voudrais une très grande maison à 10 ou 12 lieues de Londres, comme si on allait le mettre à côté de Londres pour qu'il me fomente.
Oui, lui, il le croit, effectivement. Il ne perçoit pas la crainte qu'il inspire. En fait, les Britanniques sont guidés par la peur, par une paranoïa extrême, du capitaine Maitland jusqu'à Hudson Lowe. Ils ont tous peur. Et le gouvernement Liverpool, le premier, a peur de lui. Et en plus, ce qui fonde la décision de l'envoyer à Sainte-Hélène, c'est évidemment une raison de sécurité pour ne pas qu'il s'évade. Mais il y a aussi et surtout la peur par le gouvernement britannique de son propre peuple. Ils ont peur que si Napoléon s'installe en Angleterre, d'abord, il bénéficiera de la habeas corpus et que donc ils seront embêtés par une nuée d'avocats et qu'ensuite le peuple agira pour le libérer. Liverpool écrit « Il faut toujours se méfier du sentimentalisme de notre peuple ». Donc c'est quand même un comble, c'est que en fait, Napoléon est exilé à Sainte-Hélène car par un gouvernement là, ultra conservateur, par peur de son peuple en réalité, en grande partie.
À quoi ressemble ce confinement à Sainte-Hélène, Pierre Branda? On a beaucoup écrit dessus, oui. On a beaucoup spéculé dessus également. Vous racontez la manière dont on empêche Napoléon de partir avec les fidèles qu'il aurait aimé avoir. Résultat, il se retrouve avec 3 ou 4 ou 5 derniers carrés où ce ne sont que concussions et compromissions, coups tordus entre les uns et les autres. Pour quelle raison, d'ailleurs, n'a-t-il pas accompagné de ses véritables fidèles?
Alors, beaucoup sont partis, sont morts, et il y en a quelques-uns, effectivement, il y a Savary ou le général allemand, ceux-là, mais bon, les Anglais n'en veulent pas, parce que les Anglais ont peur qu'il ait un entourage, si je puis dire, trop actif et qu'ils le soutiennent trop. Donc, ils lui autorisent une suite, 3 généraux, hein, Bertrand, Montholon et Gourgaud, un secrétaire, Lascaz, et une douzaine de domestiques environ. Mais les Anglais s'inquiètent de cette suite. Alors, au départ, comme ils sont toujours, les Anglais ont été finalement dans une. N'ont pas quitté un entre-deux pour lui. Il faut apparaître comme des geôliers à visage humain, mais tout en étant sûr que jamais ils ne s'évadent. Donc ils sont comme ça, toujours tiraillés entre ces deux pôles, et ils acceptent une suite tout de même nombreuse pour cet exilé, mais par la suite ils feront tout pour la réduire, parce qu'ils ont peur que ce soit des complices et qu'ils l'aident à s'évader. Alors même que l'île est gardée par 3000 soldats, une flotte entière, je veux dire qu'on a même été prendre l'île de l'Ascension et celle de Tristan d'Acuna, distante de 1000 km au cas où elle servirait de base arrière, parce qu'en fait ce n'est pas seulement l'île de Sainte-Hélène qui a été comme ça dévolue à Napoléon, c'est tout l'Atlantique Sud, parce que la flotte britannique de l'Atlantique Sud reçoit pour mission principale de réguler tout le trafic pour empêcher une évasion. En fait, d'ailleurs les Anglais diront nous nous préparons à une attaque d'envergure, venant d'où on ne sait pas, mais je veux dire c'est dire leur paranoïa et leur peur.
Évidemment, quand on parle de Napoléon à Sainte-Hélène et qu'on évoque le bicentenaire, on ne peut pas ne pas poser la question à laquelle Thierry Lenz avait répondu dans un livre. Napoléon a-t-il été empoisonné? Oui, répondez-vous, mais pas de la manière à laquelle on pense.
Non, il a été empoisonné par ses médecins, parce que Napoléon souffrait de l'estomac, il était atteint d'ulcères, de gastrite, d'hémorragie, donc son estomac saignait, il s'est anémié au fur et à mesure, et ses médecins, dans les derniers jours de sa vie, n'ont rien trouvé de mieux que de lui donner du mercure, qui était un médicament fort prescrit à l'époque, mais qui provoquait qui accentuait les hémorragies. Donc en fait, Napoléon, alors ils l'ont raccourci sa vie de quelques jours, sans doute, mais effectivement, ils l'ont achevé, il est surtout mort dans des souffrances atroces. Et bon, ça, c'est ce qu'on appelle un aléa thérapeutique. Mais bon, pour lui, cet aléa, ce fut la mort. Hein.
Est-ce qu'il y a eu substitution de corps? Le fameux sosie de Napoléon, on entendait tout à l'heure notre libraire chez Mola évoquer le très bon livre de Simon Less, mais qui était une farce.
Oui, qui est une farce, qui est une belle œuvre de littérature.
Enfin, il y a du complotisme aussi là-dessus.
Oui, complotisme, oui, bien sûr. Non, Napoléon repose bien aux Invalides, je rassure tout le monde. Cipriani, qui était son maître d'hôtel, son maître espion aussi, qui lui ressemblait, qui était corse comme lui, dont on aurait substitué le corps de Napoléon au sien. Tout ça est une farce. Cipriani est mort en 1818 et on l'a d'ailleurs enterré à la va-vite, tellement son cadavre se décomposait. Donc en fait, comment les Anglais auraient-ils pu conserver un cadavre pendant 3 ans? Enfin bon, tout ça relève effectivement en partie du complotisme et aussi du fait qu'on n'arrive pas à se résoudre que Napoléon est mort comme loi dans son lit, en fait. On veut qu'il ait été empoisonné, on veut que son corps ait été substitué, parce qu'il y a aussi, si je puis dire, quelque chose contre les Anglais. C'est-à-dire, ils l'ont exilé à Sainte-Hélène, mais en plus, ils l'ont empoisonné, en plus, ils ont enlevé son corps. Enfin bon, je veux dire, mais là, tout ça ne repose finalement sur rien. Hein.
Napoléon à Sainte-Hélène. Pour vous, l'année du bicentenaire, c'était vraiment les derniers jours et la fin de Napoléon qu'il fallait étudier. C'est-à-dire ce moment de la renonciation qui commence après Waterloo.
Oui, je...
Plus que la gloire... plus que la grandeur, plus au contraire que le portrait psychologique.
que reste-t-il à Napoléon à Sainte-Hélène? Il ne reste que lui-même, en fait. Donc, on va voir lui contre tout le monde. Alors, il a été de plus en plus seul au fil de son épopée, finalement, hein, à partir d'ailleurs de l'Empire. Et il ne reste que lui-même, et c'est un personnage qui désespérément se bat et espère encore. En fait, il est à 5 semaines de mourir. Il dit, ça y est, un bateau vient d'arriver, nous allons avoir des journaux, je le sais, le gouvernement Liverpool est tombé, nous allons rentrer en Europe. Quelques semaines plus tard, il est mort. Ça définit tout Napoléon, c'est-à-dire que c'est effectivement l'espérance.
Une question que je me posais en vous lisant, mais enfin, je me la posais bien évidemment en lisant aussi le livre de Thierry Lenz, l'abdication, à vous écouter, est-ce que c'est le sacrifice de l'homme providentiel ou est-ce qu'on peut quand même considérer que c'est aussi un peuple qui se libère de ses chaînes?
Il y a, comme tout est complexe, il y a en partie des deux. C'est un sacrifice, mais aussi un peuple qui se libère. Hein, je veux dire, il y a tout un ensemble de choses. Et il y a aussi la volonté de Napoléon de poursuivre sa carrière et son épopée comme il l'entend. Mais il y a quand même une volonté de ne plus faire couler le sang, et surtout pas le sang civil. Hein.
Voilà, Napoléon à Sainte-Hélène. Il y a énormément de détails. Et effectivement, on est frappé par... ce renoncement avant l'espérance qui viendra dans le confinement de Sainte-Hélène. Bruno Fuligny.
C'est moi.
Curieusement silencieux depuis tout à l'heure, mais vous voyez que vous n'en perdiez pas une miette. Que vous ont inspiré, avant d'ouvrir La fille de Napoléon, ces échanges autour de Napoléon et de l'histoire?
Ce sont des échanges, en effet. Je pense que la première qualité d'un historien, c'est d'abord d'être à l'écoute. C'est-à-dire que quand on arrive sur une question historique, quelle qu'elle soit, Napoléon, Louis XIV ou Louis le Gros, arriver en disant « il était ceci, il était cela, et mes opinions, c'est ça », et en plus en s'arc-boutant sur l'actualité la plus récente, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Pour moi, Napoléon, c'est une énigme. C'est toujours une énigme. Vous avez parlé tout à l'heure de complexité. On se penche sur le personnage, on est pris de vertige. Tous ici, nous avons travaillé, nous avons lu des centaines, des milliers de pages. Il y a une littérature colossale sur Napoléon. Nous sommes plongés dans des documents historiques. Mais ce personnage est tellement complexe que moi, je ne me sens pas le droit de le qualifier d'un terme ou d'un slogan. C'est impossible. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Et c'est aussi pour cela qu'il est passionnant. Il est à l'image de son temps. Chateaubriand nous a expliqué un petit peu l'intensité de la période révolutionnaire et impériale. On ne sait jamais si on sera encore vivant le lendemain. On vit d'une façon qu'on a peine à imaginer, nous, aujourd'hui, dans notre confort petit bourgeois. Napoléon, c'est d'abord un grand révolutionnaire. Il a été proche de Robespierre, il a été emprisonné à Antibes, comme Jacobin. Et aussi, c'est l'homme du couronnement du sacre. C'est les deux en même temps. C'est un seul et même individu. Et il y a au moins une question à laquelle nous avons répondu ce soir, c'est de se dire, fallait-il fêter le bicentenaire de Napoléon? Oui, évidemment, on y échappe. Pas.
De toute façon, il est là. Hein.
Il est là. Il ne nous demande pas notre avis. Il est présent. Oui. Il est dans notre histoire. Il est dans notre paysage. Et puis, il y a une chose qu'on a perdu de vue aussi, c'est que, au fond, dans nos polémiques très hexagonales, nous avons tendance à opposer la Révolution à l'Empire. Et nous ne sommes pas les premiers à le faire, ça s'est beaucoup fait. Mais nous ne sommes pas seuls au monde. Et s'il y a des gens qui ne s'y sont pas trompés, Pierre Bondra a commencé sur cette voie et c'est très intéressant, ce sont les monarchies du monde entier. Et puis les royalistes français qui ont rongé leurs freins en exil pendant 20 ans et lorsqu'ils reviennent pour de bon, ils reviennent une première fois en 1814, ils reviennent pour de bon en 1815, ils ont des comptes à régler. Pour eux, il n'y a pas d'une part la Révolution et d'autre part Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte ou Napoléon Ier même est le fils naturel de la Révolution. C'est un drôle de fils, c'est un fils inattendu, mais au fond... En 1788, personne n'aurait pu dire ce qui allait se passer l'année suivante. Et en 1789, personne n'aurait imaginé ni la terreur, ni le consulat et l'Empire. Et donc, dans ce tourbillon extraordinaire qu'on a du mal à imaginer, il y a ce personnage central qui nous a laissé toutes sortes d'institutions. Finalement, de ce tourbillon, il reste ces masses de granit, au fond, qui nous structurent, qu'on le veuille ou non, qui évoluent aussi. Et puis, il y a cette figure. Et c'est là-dessus, moi, que j'ai voulu travailler à travers le personnage de cette femme qui se déclare sa fille. C'est que Napoléon est aux mains des Anglais. Il va partir à Sainte-Hélène. Après, il va mourir. Mais en fait, pendant tout le XIXe siècle, il est là en France aussi. Il structure le débat public. Les débats que nous avons eus, ils ont eu lieu dans l'hémicycle du Palais Bourbon en 1840. Parce que, est-ce qu'il faut lâcher des crédits pour organiser le retour des cendres, pour construire un tombeau? Et on a des gens comme Lamartine qui s'expriment pour ou contre Napoléon. Et puis, de 1815 jusqu'à la Troisième République, en passant bien sûr par l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 et le rétablissement d'une forme d'empire en 1852, eh bien, la question de Napoléon Bonaparte, elle est centrale dans le débat politique français. Et là, il y a une jeune femme qui va bizarrement en profiter. Je ne sais pas si elle était féministe, mais en tout cas, c'est une figure féminine qui, tout à coup, arbore les couleurs d'une survivance napoléonienne.
Nous sommes en 1815 lorsqu'elle arrive. Elle s'appelle Charlotte Chapuis. Elle prétend être la fille de Napoléon Bonaparte et particulièrement le premier enfant de Napoléon Bonaparte, puisqu'elle serait le fruit de l'union de Napoléon, à l'époque jeune officier de garnison près de Besançon, et d'une certaine Antoinette Cotin. Elle serait donc l'aînée des enfants de l'empereur, ce qui pose un énorme souci, hein, ça vous le montrez très bien, Bruno Fuligny. Les royalistes viennent de revenir au pouvoir, ils voient d'un très mauvais œil cette menace. Elle a 20 ans, Charlotte peut devenir une espèce de Jeanne d'Arc bonapartiste, et puis surtout elle pourrait donner naissance à un fils qui revendiquerait alors le trône de Napoléon, si, évidemment, l'Empire était restauré. Quand même une histoire folle que vous nous racontez, Bruno Fuligny, dans ce livre. Il y a tout pour qu'on se dise, mais c'est Alexandre Dumas. Une naissance mystérieuse, la police secrète, une évasion, un enlèvement, une fuite amoureuse, la sûreté de l'État qui est compromise. Alors allons-y. Vous racontez que c'est dans les lettres, aujourd'hui, d'informateurs, de dénonciateurs de la police de Fouché, que vous avez, pour la première fois, découvert l'existence de cette Charlotte Chapuis.
Oui,
racontez-nous.
Charlotte Chapuis est une quasi-inconnue dans l'historiographie. Il y a 7 ans, j'ai acquis, parce qu'il existe un marché des manuscrits anciens, j'ai acquis un ensemble de manuscrits. Et
c'est votre dada, hein, vous faites ça depuis très longtemps, vous vous intéressez à la police secrète, à Landru, d'autres, aux criminels. Vous achetez tout ce qui est pièce à conviction.
Alors, il y a beaucoup de choses, heureusement, qui sont dans les archives publiques. Il y a beaucoup de dossiers aux archives nationales, aux archives de la préfecture de police. Et bien sûr, comme beaucoup de chercheurs, je me suis plongé dedans. Mais on trouve parfois, par bonheur, des documents qui ont été mis de côté et qui peuvent rester dans des familles, qui peuvent circuler. Et, bon, mais en général, vous faites l'acquisition d'un document, une lettre. Une lettre qui évoquerait le jeune Bonaparte, c'est déjà très précieux. Et là, c'était un dossier complet. Un dossier complet d'une cinquantaine de documents, une centaine de pages manuscrites. Et surtout, les documents émanaient de personnages différents. C'est-à-dire que lorsque j'ai réussi, enfin, ça a pris du temps, à les lire, relire et à les classer chronologiquement, ces documents se lisaient d'eux-mêmes comme un véritable roman épistolaire. C'est-à-dire qu'on avait les différents protagonistes. Cette jeune femme, imaginez une jeune femme de 20 ans qui surgit dans la France, alors là, complètement dévastée, hein, de l'été 1815, après Waterloo, les invasions étrangères, l'instabilité politique totale, l'incertitude, les ultra-royalistes qui voudraient revenir à avant 1789. Tous les Français qui ont bénéficié à un des degrés divers de la Révolution et de l'Empire, qui se demandent ce qui va arriver. Et cette jeune femme dit « Je suis la fille de Napoléon ». Elle a peur pour sa vie. Elle se réfugie, ce qui montre qu'elle était assez habile, auprès des Autrichiens. Parce que dans les différentes forces qui se trouvent actuellement en France, c'est finalement ce qu'il y a de moins hostile. Au fond, Marie-Louise, les Glons sont un peu de la famille, quoi. Et le général autrichien qui est devant Besançon est très ennuyé. Mais dans le doute, et là, les documents l'attestent, il l'a fait garder avec une sentinelle qui lui est dévouée, une sentinelle pour elle toute seule, à part. Donc elle est à la fois prisonnière, mais prisonnière avec une forme de déférence. Et lorsque l'armée autrichienne se met en mouvement, on va passer cette jeune femme aux Français, et là les choses vont se gâter, parce que c'est un certain Fouché qui est, comment dirais-je, alerté de
l'affaire. Fouché, on le rappelle, hein, le régicide, le ministre de la police, l'éternel comploteur contre Napoléon, celui qui sera l'artisan de sa chute, Pierre Brandal montre bien, hein, lors de l'armistice de juin 1815. Évidemment, Fouché va immédiatement saisir la carte politique, mais en passant par la casse-prison.
C'est ça. Alors Fouché est averti, mais dans les derniers jours de sa présence au ministère de la Police Générale, et on a dans le dossier une note extraordinaire d'un informateur qui signe d'un pseudonyme, Mutinus, ce qui était le surnom de Priape dans l'Antiquité, donc ça laisse supposer plein de choses sur cet informateur. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas juste affaire à une folle qui criait « Je suis la fille de Napoléon au coin des rues ».
Qu'est-ce qui prouve que ça n'est pas une affabulatrice, comme on en verra pendant tout le 19e siècle?
Ça peut être une affabulatrice, mais c'est une affabulatrice qui représente un danger et donc qui est prise très au sérieux. Encore une fois, si ça avait été une démente au coin des rues, la gendarmerie aurait réglé ça très vite. Là, l'information remonte jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et lorsque Fouché s'en va, contre son gré, il est nommé ambassadeur et puis au fur et à mesure qu'on l'éloigne, on va pouvoir l'éliminer complètement. Il a fait le boulot pour les royalistes, on n'en veut plus. Un régicide, ministre de Louis XVIII, ça fait un peu désordre. Mais son successeur, le duc de Casse, qui va rester en place très longtemps, va être impitoyable pour la pauvre Charlotte. C'est-à-dire que Charlotte va être enfermée de façon totalement discrétionnaire pendant quasiment un an.
Et torturée.
Et à un moment, on a une lettre, effectivement, un échange de correspondance entre le préfet et le ministre, et le ministre demande un interrogatoire dirigé de façon à lui faire admettre qu'elle n'est pas la fille de Napoléon.
Elle se rétracte d'ailleurs.
À ce moment-là, elle se rétracte et comme j'ai les manuscrits, ce qui est vraiment frappant, c'est que les lettres, parce qu'elle essaye de faire passer des correspondances pliées en petits, etc., à l'extérieur de sa prison, et évidemment, ces lettres sont interceptées. Donc, c'est comme si on l'entendait parler, c'est extrêmement touchant. Dans ces lettres, elle s'adresse aux amis qu'elle a à l'extérieur pour essayer de les faire bouger, elle leur raconte un petit peu ce qui lui arrive. Et après cet interrogatoire dirigé, c'est plus le même ton. D'abord, elle est totalement désespérée et ça n'est plus la même graphie. Il est possible qu'on lui ait fait un petit peu mal au doigt. Et donc, elle est là vraiment au fond du désespoir. Elle évoque des idées de suicide. Elle est vraiment là dans un état dramatique. Sauf que comme elle a fini par se rétracter, elle devient moins dangereuse. On a un écrit indiquant qu'elle n'est plus provisoirement, en tout cas, fille de Napoléon. Et donc, on va la laisser sortir. Et à peine sortie, ce qui est extraordinaire, c'est que se produit autour d'elle un phénomène de cour, c'est-à-dire que tous les demi-soldes, tous les nostalgiques de l'Empire se rassemblent et, clin d'œil de l'histoire, ça n'a aucune raison d'être, mais c'est quand même, elle va rester sortie pendant 100 jours. Elle a ses 100 jours, et là, le ministre se dit non, mais c'est pas possible.
Non, attendez, et c'est là que le lecteur se dit il en fait un petit peu trop.
Oui, mais c'est le dossier. C'est le dossier.
Bien sûr, c'est le dossier. Pierre Branda, Thierry Lenz, je m'adresse aux deux représentants de la Fondation Napoléon, le spécialiste. Vous connaissiez l'histoire de Charlotte Chaplin?
Absolument pas. Je l'ai découverte.
Pierre Branda?
Non, mais ce qui est passionnant, c'est que, en fait, Bruno fait le travail du détective de l'histoire. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans le métier d'historien.
C'est son boulot, ce que vous l'aviez déjà fait sur les archives secrètes de la police dont on avait parlé dans cette émission.
C'est vrai, ouais.
Ce que vous aimez, c'est ça, c'est jouer les détectives à 200 ans de distance. Qu'est-ce qui est...
Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que, d'abord, j'ai interrogé la Fondation Napoléon avant la sortie du livre, pour savoir, et là, quand même, la Fondation Napoléon a une bonne documentation, et m'a trouvé quelques lignes dans une revue savante qui, elle-même, faisait référence à quelques lignes dans un bulletin de police. Donc, parce qu'à un moment, cette histoire était tellement incroyable, tellement belle, c'était tellement la comtesse de Monte-Cristo, en fait, qu'on enferme et qui ressort pour se venger, que je me suis même demandé si ce dossier n'était pas l'œuvre d'un mystificateur génial qui avait réussi à le mettre sur ma voie.
De vous à moi, c'est un peu la question que je vous pose.
Mais en fait, non. Charlotte Chaplin, elle a existé. J'en ai la preuve par, d'une part, les documents trouvés par la Fondation Napoléon, mais aussi par les documents d'état civil que j'ai pu rassembler, et surtout, grâce aux documents d'état civil et grâce à des sites de généalogie, figurez-vous que j'ai retrouvé ses descendants. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une trentaine de personnes qui, évidemment, à deux siècles de distance, descendent de Charlotte Chaplin. J'ai fini par les rencontrer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'eux m'ont dit que même s'ils n'en font pas état à l'extérieur, même s'ils n'ont pas de prétention sur la couronne impériale de France, je vous rassure, eh bien, depuis leur enfance, dans leur famille, il se dit, avec beaucoup de fierté pour certains, avec un peu de malaise chez d'autres qui sont plus bigots et pour qui descendre par une histoire de bâtardise est un peu gênant. Mais en tout cas, depuis l'enfance, ils savent qu'ils descendent de Napoléon par cette femme extraordinaire qui était Charlotte Chaplin, parce qu'elle a réussi à sortir de son deuxième cachot en suscitant des demandes en mariage. Et là, il se passe quelque chose d'encore plus incroyable, c'est que c'est l'administration qui commence à en avoir marre de Charlotte Chapuis. En 1817, bon, les passions se sont très légèrement apaisées. On se dit que si elle se trouve un mari à la campagne et qu'elle se tient tranquille, ça pourrait aller. Bon, l'administration va choisir parmi les prétendants un mari, qui est en fait un de ses cousins. Elle peut sortir pour l'épouser. Elle lui fausse immédiatement compagnie. Et elle va séduire un riche maître de forge qui l'enlève. Alors, comme dans les meilleurs romans à l'eau de rose, j'avoue, mais là encore, on a même la lettre du père du fiancé cocu qui va se plaindre à l'administration en disant « Écoutez, vraiment, on avait fait des efforts, on voulait bien de cette personne dans notre famille. Elle est partie avec un autre, maintenant ça ne nous concerne plus. »
À vous lire, Bruno Fulini, finalement, l'histoire a de plus grandes ambitions et imaginations que la littérature et le réel est plus puissant que la fiction.
Bon, vous savez, un certain Honoré de Balzac connaissait sur le bout des doigts son histoire de la Révolution, son histoire napoléonienne.
Vous me servez la question, parce que là, on arrive à la fin de cette émission. Bon, le livre est en vente depuis 2 mois, on peut le dire. C'est un canular.
Mais pas du tout. Je tiens les documents à votre disposition.
Non, mais sérieusement.
Non,
je vous assure. Vous faites votre Balzac, c'est très bien d'ailleurs, c'est formidable. Hein?
Bah, je suis flatté du parallèle, mais je ne le revendique pas plus que les descendants de Charlotte Chapuis, la couronne impériale. Ces documents existent et je les tiens à la disposition de chacun. J'admets que l'histoire est incroyable, mais au fond, c'est l'histoire de France et c'est l'histoire de la Révolution, de l'Empire, qui est incroyable et qui est totalement imprévisible. Et ce qui m'a intéressé dans Charlotte, c'est qu'en tant que fille de Napoléon, elle est la survivance de cette histoire. Elle est une incarnation. Donc, pour raconter cette période, pour moi, elle a été une guide extraordinaire. Mais elle a véritablement, historiquement existé. Elle a vécu des drames. Et puis, elle a réussi à s'extraire de tout ça. Elle a même eu une vieillesse assez heureuse, et c'est, puisqu'elle a même soutenu Louis-Napoléon Bonaparte en 1848. Elle est devenue une notable.
Vous montrez d'ailleurs comment Napoléon III, le futur Napoléon III, a besoin d'elle et comment il viendra quémander son soutien. C'est quand même le monde à l'envers.
Et elle l'appelait mon cousin.
Voilà, la fille de Napoléon, c'est aux arènes. Le goût du débat, j'espère qu'on vous l'a donné. Merci d'avoir suivi cette émission qui touche à sa fin. Les célébrations ou les commémorations, elles, débutent. Et on retrouvera, j'imagine, un peu partout nos invités, Thierry Lenz, Pascal Fautrier, Bruno Fulini, Pierre Branda et Frédéric Régent. Vous pouvez gagner les livres de nos invités et comme ça, voilà, avoir un panorama très, très complet de ce qui s'écrit sur Napoléon en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec notamment Édouard Louis sur le plateau de cette émission. Et puis dans 15 jours, notez-le parce que c'est exceptionnel. Yasmina Reza met fin à 25 ans de boycott de la télévision et elle sera avec nous dans la Grande Librairie. On s'en réjouit. Je vous souhaite de belles lectures. À la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.